Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Merci de me rejoindre un vendredi soir. Quel étrange horaire pour trimer de l'actu. Mais c'est comme ça qu'on m'en est empêché de faire de la revue de presse en journée, très momentanément, en raison des tournages de questions pour un champion. On fait ça le soir. Voilà. Il est hors de question qu'on ne fasse pas la revue de presse. Voilà. Comment ça va? J'espère que vous avez passé une belle journée. J'espère que le week-end s'annonce bien. J'espère qu'il y a de jolis projets. Salut Captain Oui-Oui. Salut, n'importe quel soir, on est là. Merci Sugar. Je vois, je vois, je vois, je vois. Content d'être en week-end. On va pouvoir streamer un peu plus librement. Donc, actu ce soir. Demain, je sais pas encore. On va en parler. Demain matin, non. Je vais m'occuper des enfants que je vais emmener à l'escalade. Demain après-midi, peut-être. Peut-être un petit react. Demain après-midi, commission. Peut-être un peu de gaming samedi soir. Ça me plaît dimanche. Voilà, c'est là. Là, par là. Waouh, quel trucage! Waouh! Waouh! Voilà, avec Patrick Beau, ouais, je vois que certains connaissent, que j'ai eu l'occasion de rencontrer parce qu'il m'a invité dans son podcast il n'y a pas longtemps et on a bien sympathisé. Et du coup, je l'ai invité dans Ça me plaît pour un jeu sur lequel j'ai fait quelques recherches qui a l'air assez étonnant de Stanley, comment on dit? Parable? Je suppose, non? Sugar. My bilingual friend, c'est ça? Parable? Right. Comme ça, merci beaucoup. Voilà, et je pense que ça va être. Donc, c'est un bon week-end de stream. Ça va streamer ce soir, ça va streamer demain après-midi, ça va peut-être streamer un petit peu samedi soir. On va peut-être pas caler une revue de presse dimanche, sauf s'il se passe des folies. Et puis, dimanche soir, ça me plaît. Et après lundi, on reprend question pour un champion. Pour 3 jours, lundi, mardi, mercredi. Donc, ça veut dire qu'il n'y aura pas de revue de presse le matin. Ce sera le soir. Et puis. Le 3, c'est quand? C'est vendredi prochain? Attends. Et après, on a le stream à la Cité des Sciences, là, sur l'esprit critique, qui va être top. Attends, c'est quand le 3? C'est vendredi, c'est ça? Hop, je prends mon agenda. Alors, pour du coup, je prends mon agenda électronique. C'est ça. Ouais. Et donc, vendredi, Cité des Sciences, le triple stream. On fait ça là-bas, la Cité des Sciences, dans le cadre du printemps de l'esprit critique, qui est un sujet intéressant. Et on aura à 9h une mini revue de presse d'1 heure, à 10h des battles d'éloquence avec tous les gens qui voudront être sur place pour l'exclamation décryptage. Vous avez le lien dans le chat pour vous inscrire gratuitement à cet événement. Vous pouvez venir faire des petites battles d'éloquence sur les questions financières d'argent, parce que c'est le thème cette année du mois de l'esprit critique. C'est le mois de l'esprit critique et sur la question notamment de l'argent. Et puis à midi, donc en troisième heure, on aura une table ronde sur ces questions avec des spécialistes. Voilà, ça va être un joli stream. Voilà. Donc c'est quoi le lien pour s'inscrire? C'est point d'exclamation décryptage. Et tu as le lien dans le chat et tu as le lien qui va s'afficher. Je vais te l'épingler après si tu veux. Merci Anto, Liorpo, merci pour le soutien, merci Po43, merci Mélindalien, merci beaucoup, merci pour les subs du soir. Voilà, vous l'avez, si vous voulez, je vous l'épingle. Voilà. En vrai, ça va être sympa. Il y a eu un gros dossier sur l'épargne dans le Figaro à ce sujet. Oui, je l'ai lu. Je l'ai lu. Après, les questions d'épargne, c'est marrant, c'est des sujets qui personnellement m'intéressent. Où est-ce qu'on met ses sous? Mais. J'en mets très peu dans ma revue de presse, je sais pas pourquoi d'ailleurs. Je sais pas. Là, j'ai un énorme dossier de plusieurs pages sur l'épargne, où mettre son argent. Mais je sais pas, j'ai l'impression que ça me mettrait dans la peau d'un gestionnaire de patrimoine, d'un conseiller en patrimoine, voire d'un conseiller bancaire. Je sais pas. Je sais pas. Je trouve que ça cadre pas tellement avec l'exercice de la revue de presse qui est en gros de vous dire. Qu'est-ce qui s'est passé d'important ces dernières heures, quoi? Force, Madame Gesmer, pour la laryngite et la pharyngite. Il m'a intéressé ce sujet perso depuis ma prime d'hier. C'était pour ça que t'étais de bonne humeur comme ça, Sugar, hier, il y a eu grosse prime. Mais grosse comment? C'est-à-dire grosse, grosse, grosse? Grosse. C'est cool en tout cas. Voilà. Donc voilà, on va pas parler de ce sujet-là, mais par contre, je vous ai mis plein d'autres choses. Tiens, je vous mets le sommaire pour vous mettre en appétit. Le sommaire, il est par là. Où est-ce que je l'ai mis? Sommaire Boubou. Voilà, ça, c'est les sujets dont on va parler ce soir. Que j'ai lu tôt ce matin, et puis un petit peu entre deux émissions aujourd'hui. Et c'est plutôt intéressant. Alors, comment ça va? Je vous lis un petit peu. Pauvre Madame Gesmer qui est malade. Il y en a qui prennent des primes et il y en a qui sont malades. C'est ouf. C'est incroyable comme jeu expérience. Ah, tu parles de Stanley Parable? Mary? Ouais. Alors, ce que j'ai trouvé sur les internets sur le World Wide Web à ce propos est assez intéressant. Ouais. Et Patrick, Patrick est, comment dire, je dirais le beau gosse là. Un peu un historique quand même. Hein. Il est, c'est un créateur de contenu depuis un moment, quoi. J'ai eu le débrief du bingo de mon beau-père gentil. J'ai eu le débrief du bingo. Bon. Alors, je l'ai pas. Le bingo, c'est pas un jeu. C'est pas un jeu avec des petites boules. Alors, chaque mot a du sens, le cœur est tien. J'ai eu le débrief, ok? Du bingo de mon beau-père urgentiste. Alors, chaque mot fait sens, mais les mots ensemble, dans ta phrase, je ne vois pas le. Ou alors, manque un mot, il manque des lettres? Je sais pas. C'est un jeu? C'est un jeu? Faut que je devine? Incroyable, Stanley Parable, ça m'a beaucoup marqué comme jeu. Ok. Je recommande sa chaîne YouTube Axolot pour ceux qui ne connaissent pas. Exactement, Axolot. Alors, je ne regarde pas les JT grosses. Grobs of Belgium. Alors, je t'avoue que je ne regarde pas la télé, moi, donc je vais pas te donner mon avis là-dessus parce que je ne la regarde pas du tout, quoi. Ok. Est-ce qu'il faut mettre le nom de famille quand on s'inscrit aussi? Bah, je suppose que c'est pour que vous ayez accès à la salle, quoi. Enfin, je pense, hein. Ouais. Je pense, hein. Bonjour, j'arrive juste, on a déjà parlé du sommaire, pas encore. C'est juste WXCVBN38, c'est juste un petit apéritif. On n'a pas commencé le sommaire encore. Mais les bons sujets, hein. Moyen-Orient, le piège de la dette. Alors, je vous parle pas de placement financier, mais les chiffres sur la charge de la dette, là. Tant que les taux d'intérêt qui remontent pour la France, des chiffres un peu inquiétants. L'OANA, alors, j'en ai parlé il y a 2 jours, je suis pas revenu hier, mais j'ai trouvé 2 articles d'une qualité telle que j'ai voulu vous en reparler, parce que je trouve un bel article. Écrit par. Alors, est-ce que je me demande si c'est pas l'écrivaine, qui est la femme qui avait prêté sa plume à Loana pour écrire son livre. Et en tout cas, l'article est magnifiquement écrit, il est très touchant. Donc, c'est ce Loana figure tragique de la réalité que je vous lirai. Puis un autre article dans Libération aussi sur la responsabilité éventuelle du monde de la télé dans ce qui lui est arrivé. Et dans le fait que personne n'est allé à son secours, quoi. Voilà. Puis il y a la justice contre les GAFAM aussi, il se passe des choses très intéressantes en la matière. Et puis la suite d'un feuilleton dans Le Monde passionnant sur les gourous de l'IA. On verra ça tout à l'heure. Ouais, mais là, c'est un pré-sommaire. C'est le sommaire du sommaire que je viens de vous faire. Pas de revue de presse des bonnes nouvelles demain, Kiki. Non. Non, parce qu'avec la question pour un champion, ça a été compliqué. Non, j'ai plutôt envie de vous faire un. Demain, je vous ferai bien, demain après-midi, ou demain soir, je sais pas, un react du passage de M. Bolloré devant la commission de l'Assemblée sur l'audiovisuel public, parce que je trouve que c'est quand même un peu étrange ce qui s'est passé. Il y a eu quand même beaucoup d'articles dans Le Monde, dans Libération, dans l'Humanité, mais pas seulement, et beaucoup de médias qui se sont interrogés. Et c'est vrai que je pense qu'on est en droit de s'interroger sur plein d'aspects de cette audition. Je pense que ça peut faire un joli live react. Ouais. Monsieur Manhattan, je savais pas, j'avais pas capté qu'on pouvait lire le sommaire, je pensais qu'il servait juste de cache. Bah, si tu t'intéresses à autre chose qu'au zizi, oui, en vrai, ça a un intérêt, ouais. Alors, je sais pas si je le fais demain après-midi ou demain soir, parce que si je le fais demain après-midi, il y a un monde, du coup, je fais un live gaming le soir, quoi. Ouais, vous êtes chaud sur Bolloré? Ok, super. Merci Manjiro. Manjiro-Rou plutôt pour le Prime. Merci encore Antolio-Repo. D'autant que les commissions parlementaires, c'est aussi fait avec notre argent. Ouais, bah c'est une belle un beau gâchis d'argent public, si je puis me permettre. Tais-toi, ça me tienne. Je sais, l'Institut Thomas More, le fameux Institut Thomas More, ça aussi on pourrait en parler, ouais. Mais il y a trop de choses, hein. On pourrait être en live non-stop pour analyser le travail de cette commission. Merci Clem. Oui, puis le bourreau, j'avais compris ta ref, moi, mais je suis pas sûr que ce soit les modos qui t'ont. Je crois que c'est un autoban de Nightbot. Merci Elouan. Merci Elouan. Revue de presse demain matin, il y a un monde où j'aimerais demain vous faire un react sur Bolloré, une revue de presse et un live gaming, mais je vais être raisonnable. Ma famille m'a quasiment pas vu cette semaine à cause de questions pour un champion. Et donc, du coup, le samedi matin, c'est les enfants vont à l'escalade. Donc, non, non. En fait, vu la richesse de l'actu en ce moment, j'ai très envie de vous faire une revue de presse tous les jours, mais je vais mettre un petit coup de frein à main là. Et demain matin, je ne vous ferai pas de revue de presse. Ouais. On va prioriser la famille là. Ouais, j'ai donné un petit coup de main à la maman quand même. Pas déconner. Voilà. Alors, ça fait quand même un joli menu de stream ce week-end. Hein. Ce soir, demain après-midi et ou demain soir, dimanche matin, s'il y a beaucoup d'actu, pourquoi pas, une petite revue de presse vite fait. Hein. Et samedi soir, le Samplay. Et après, lundi, mardi, mercredi, la revue de presse le soir, parce qu'il faut qu'il y ait une revue de presse tous les jours, sinon cette chaîne n'a pas de sens. Et puis, vendredi, on a ce gros stream là, super. Jeudi, rien de spécial, sauf qu'on aura une journée normale avec une revue de presse le matin. Jeudi prochain, retour de la revue de presse le matin. Je l'attends avec impatience, celui-là. Et vendredi, eh ben, le stream que vous avez du grand décryptage là. N'hésitez pas à venir me voir IRL parce que c'est l'occasion de se voir IRL aussi. Voilà. Et c'est gratoche. L'opacité du menu a changé? Non, c'est toujours le même. Toujours le même. En fait, il est opaque, sauf entre les petits traits là. Ouais, c'est la même chose. On va peut-être y aller. Je vous fais un petit sommaire de cette belle revue de presse qui arrive là. Ce sera là. Et c'était pas opaque il y a un mois. Ouais, ne reparlons pas de ça. C'est qui Gratoche? C'est un pote. C'est un pote très cher à moi. Ouf. Salut Zoéris, bonsoir à tous, très sympa cette paire de lunettes, elle te sied très bien. En fait, moi je suis très myope, hein. Je suis myope comme une taupe depuis. Je suis tout petit. Mais depuis mes 12 ans, depuis que j'ai les 12 ans, donc ça fait littéralement quelques années, je porte des lentilles, parce que c'est plus pratique, parce que quand on a porté des lunettes enfant très très tôt, on a de cesse de s'en débarrasser. Mais j'ai une paire de lunettes que je mets le soir pour me reposer les yeux, tranquillou. Et puis de temps en temps ici aussi quand mes yeux piquent un peu, et c'est le cas en ce moment avec les pollens. Voilà. Ah merci, Pulboro, ton message qui me fait plaisir. Voilà un an que je regarde quasi toutes les revues de presse, je comprends désormais mieux le monde qui m'entoure et je vous dis oui à la vie en 2027, votez Samuel. Merci. Bon. Trop frais le bug sur le poster derrière toi? Ouais. Caliente. J'avoue. Allez, on se fait un petit sommaire. Si j'ai votre go, je vous envoie le sommaire avec des jolis sujets et après on développe tout ça. Petite soirée vendredi, chill actu. Comment ça, il n'y a plus d'image? Oui, j'ai enlevé l'image de. Oui. Parce qu'en fait, c'était sur le raccourci de la fiche du Simplay. Mais je la remettrai si vous voulez. Les mots existent toujours, hein. Les mots existent toujours. Et puis, il est beau gosse ce gars recherché là par la police japonaise. On y va? Allez, c'est super. Et je vous remercie d'être là parce que quand je suis là en live avec vous, je vis ma meilleure vie. C'est parti. On va fermer ça et on va envoyer le sommaire. Bonsoir à tous. En fait, je dis bonsoir à tous parce qu'en fait, c'est là que ça commence pour ceux qui nous regardent en podcast audio. Ils n'ont pas l'intro. Bonsoir à tous. Bienvenue dans la soirée Étienne, ce qui est normalement la matinée Étienne, c'est la revue de presse, mais en ce moment je suis en question pour un champion. Je l'ai fait 4 jours cette semaine, 3 jours la semaine prochaine, donc je ne peux pas faire la revue de presse le matin. Et comme c'est une promesse, cette chaîne elle fait une revue de presse tous les jours, à minima du lundi au vendredi, eh bien j'en fais une le soir en ce moment pour compenser. Donc bienvenue et merci à ceux qui sont en live sur Twitch actuellement ce vendredi soir, j'espère que le week-end se prépare bien. Merci à ceux qui vont m'écouter en replay sur YouTube, merci à ceux qui vont nous écouter en replay en podcast audio. Je vous embrasse bien fort, ça me fait bien plaisir qu'on m'écoute aussi en podcast audio sur toutes les plateformes de podcast. Merci doucement à l'instant pour le soutien. On va commencer par le sommaire comme d'habitude, pour vous dire ce qu'il y a un petit peu d'intéressant, d'important dans l'actualité, en tout cas selon ma subjectivité. N'oubliez pas que forcément, quiconque vous parle d'actualité fait des choix, déjà dans l'actu, qui est une première subjectivité, des choix d'actualité, ensuite des choix de médias qu'il va utiliser pour s'informer, ce qui est une deuxième couche de subjectivité, même si on met de la rigueur et de l'honnêteté dans tout ça. Et ensuite, il en parle avec ses yeux, ses mots, ses valeurs, son parcours, qui est une encore plus grosse couche de subjectivité. Donc on essaie de faire un travail sérieux et rigoureux, mais tout ça est quand même très subjectif. Ne l'oubliez pas. De quoi on va parler dans l'actualité ce vendredi soir? On va parler du conflit au Moyen-Orient, comment ne pas en parler tous les jours en ce moment quand même, avec alors deux articles qui peuvent sembler paradoxaux. Un premier dans Le Monde, dernière édition, qui est sorti cet après-midi, sur la peur d'une fin précipitée de la guerre. C'est bizarre, pourquoi on aurait peur de la fin de la guerre? C'est Israël. C'est Israël et les monarchies du Golfe qui craignent que Trump privilégie une sortie bâclée, hein, parce qu'il s'est rendu compte que c'était un peu plus compliqué qu'il ne pensait cette histoire, notamment avec la crise économique et la crise pétrolière liée à cette guerre, et qu'il sorte, disons, de façon bâclée, sans véritable résolution. Donc un article qui donnerait du crédit à l'hypothèse selon laquelle Trump essaye de sortir de cette histoire. Sauf que, quasiment au même moment, dans Le Parisien, j'ai un article sur les scénarios d'un assaut américain, c'est littéralement l'inverse, avec un débarquement sur le sol iranien, peut-être de façon ponctuelle, peut-être pour des opérations hit and run, comme ils disent là-bas, de troupes américaines. Voilà. Les scénarios d'un assaut américain, c'est dans Le Parisien, page 9. Détroit d'Ormuz, Donald Trump menace l'Iran de conséquences désastreuses si cette voie maritime névralgique devrait rester fermée. Des milliers de soldats américains se déploient actuellement dans la région, ce qui est vrai, ce qui est factuel. Qu'est-ce qui va se passer? Bien malin, c'est lui qui le dira. En tout cas, on lira ces deux papiers que je trouve très intéressants. L'actualité en France, c'est... Alors j'ai un peu hésité à vous en parler, je me dis, oh là là, encore la dette publique française, encore la charge de la dette, des chiffres, des soucis, des inquiétudes, des mauvaises nouvelles. Non, sans être un obsédé de la dette et de l'état des finances publiques, quand on voit les chiffres dans ce papier des Échos ce vendredi, on se dit qu'il y a quand même des motifs d'inquiétude. Le piège de la dette se referme sur les finances publiques françaises. La guerre en Iran fait, merci Trump, hein, monter les taux d'intérêt auxquels la France emprunte et complique l'effort de réduction du déficit public. Donc d'après ce que j'ai compris dans l'article, notre dette globalement, bon, elle est importante, c'est pas tant que ça qui bouge, mais c'est la charge de la dette, c'est les taux d'intérêt. Les taux d'intérêt remontent actuellement, et donc comme on fait rouler les emprunts, comme on ne rembourse pas la dette, nous, la France, comme la plupart des pays d'ailleurs endettés, c'est-à-dire quasiment tous les gros pays de la planète, on ne rembourse pas notre dette, hein. On rembourse les intérêts de la dette. Alors le problème, c'est que quand un emprunt arrive à échéance, on réemprunte, hein, pour le rembourser. Sauf que les taux d'intérêt de ces réemprunts actuellement sont en train d'exploser. Bam ! Qu'est-ce qui augmente ? La charge de la dette, hein, les intérêts qu'on va payer. Selon une projection de l'Institut Rex et Code, la charge de la dette pourrait doubler d'ici à 2030. Doubler à 2030 pour dépasser 120 milliards d'euros. Eh ben, c'est des milliards d'euros qui n'iront pas au budget de l'éducation, au budget de l'armée, au budget de la culture, au budget de la sécurité, etc. Donc on lira ce papier. Hein. C'est pas une méga bonne nouvelle, mais ça me semble important. Gims, la nouvelle de Gims. Il y a deux jours, si je dis pas de bêtises, on traitait de l'arrestation de Gims sur le tarmac, au pied de l'avion, hein, dans une affaire de blanchiment d'argent. C'était il y a deux jours. Le Parisien m'annonçait ce vendredi matin qu'il était maintenu en garde à vue. Et Camille me dit dans le chat qu'il vient d'être mis en examen par le juge. Hein, on ira voir cette actualité. On ira vérifier cette info. Camille, non pas que je mette ta parole en doute, mais toujours trouver une source derrière une info. Le rappeur a donc été interpellé mercredi. Donc c'était bien il y a deux jours, je ne me trompe pas. Il est soupçonné d'être lié à une vaste affaire de blanchiment d'argent en bande organisée. Une personnalité publique populaire comme Gims, interpellé, maintenu en garde à vue, mis en examen, c'est quand même énorme. Hein, c'est pas de la, comment dire, c'est pas de la du voyeurisme lié à son statut de personne publique. Ça pose quand même beaucoup de questions. D'autant que ça fait quand même un petit moment qu'on se pose des questions sur les rapports entre grand banditisme et milieu du rap, en mode de blanchiment d'argent, justement, de liens sur le trafic de drogue, de pression sur les rappeurs. Voilà peut-être une affaire qui va nous faire un petit peu comprendre plein de choses là-dessus. Et puis, Vous serez peut-être surpris, cette semaine, on s'est penché le soir où on a appris cette triste nouvelle sur la mort de Loana. Certains m'ont demandé si j'allais y revenir hier, je ne l'ai pas fait, mais j'ai trouvé deux articles que je trouve tellement, tellement intéressants et tellement forts, qui nous parlent de Loana, bien sûr, de qui elle était, de pourquoi elle en est arrivée là, et des éventuelles responsabilités de c'est inconditionnel, hein, de notre société ou de notre système médiatique, hein, avec la télévision qui, à un moment, fait exploser sa notoriété. Eh bien, je trouvais intéressant de lire ces deux papiers. L'un parce qu'il est magnifiquement écrit par une femme qui s'appelle Laurence Caracalla. Je me demande si c'est pas elle qui a prêté sa plume au livre que Loana avait écrit à une époque. Et puis un autre article, cette fois dans Libération, signé Adrien Franck, sur les réactions du monde de la télévision. Lors de ses dernières apparitions télé, Loana faisait entrevoir une profonde détresse. Et Libération nous dit une détresse qui a été ignorée par la sphère médiatique, nous parle notamment de la manière dont l'émission TPMP de Cyril Hanouna sur Feu, comment s'appelait cette chaîne, C8, et c'est pas une chaîne qui appartenait au... C'est pas une chaîne du groupe Bolloré, ça ? Voilà. Et c'est vrai que c'est un peu triste, cette histoire. Voilà. Après l'annonce de son décès, producteurs, diffuseurs et téléspectateurs cherchent les coupables. Et puis, pour finir, alors, ça c'est une information essentielle, la justice. Il y a deux jugements qui viennent de tomber. Alors, l'un en Californie contre Instagram et YouTube, qui viennent d'être tenus responsables par la justice américaine d'avoir alimenté la dépression d'une adolescente à cause de leur fonctionnalité addictive. Voilà. Donc, il y a ce jugement-là, et il y en a un autre. Attendez, il est à la fin de l'article. Il y a eu beaucoup d'articles ces derniers jours. Voilà. Verdict la veille, toujours aux États-Unis, au Nouveau-Mexique, avec le jury d'un tribunal civil qui a reconnu Meta responsable d'avoir mis en danger des dizaines de milliers d'utilisateurs mineurs au sein de l'État. Voilà. En les exposant à des contenus inappropriés et à des prédateurs sexuels. Et le tribunal qui a ordonné au groupe de verser 375 millions de dollars de dommages et intérêts. Il se passe des choses sur un plan sociétal et légal autour des GAFAM. Vous voyez que la Croix s'interroge. Est-ce que ce n'est pas un tournant pour les réseaux? Il y a un édito dans le monde là-dessus. Le vent est peut-être en train de tourner sur l'absence de modération, d'encadrement du contenu qu'on trouve sur les réseaux sociaux, hein, dont ils se lavent les mains pour des raisons de business. Voilà. Donc, voilà, la roue tourne, est en train de tourner, exactement MMG. Et puis, on va continuer et finir ce stream avec la suite d'un feuilleton passionnant dans Le Monde. On en est, regardez, au troisième épisode, 3 sur 9. Un feuilleton dans Le Monde sur les gourous de l'IA, hein, les têtes pensantes et qui... comment on dit, décideuses, les têtes décideuses, on pourrait dire ça, de l'IA, voilà, avec cette fois un portrait d'Arthur Mensch, le fondateur de la start-up Mistral AI, qui dénonce la concentration de cette technologie, l'IA, dans les mains d'une oligopole. Voilà. Donc je trouve ça assez intéressant. Comment on fait pour enlever les sous-titres, Priscilla? Tu vas sur... tu dois avoir un petit carré CC, peut-être en bas à droite de ton écran, et qui te permettent de mettre ou d'enlever les sous-titres que j'ai mis pour les personnes sourdes et malentendantes. Tu l'as vu jusqu'à quelle heure? On est ensemble jusqu'à 23h pour la revue de presse. Alors est-ce qu'à 23h, je lance un petit stream gaming dans la foulée? Ça, je sais pas encore. No lo sé. Je sais pas encore. Voilà. Voilà mon petit sommaire. T'en pensez quoi? Ça vous plaît ou ça vous plaît? Ah, merci Grobs, tu régales. J'ai trouvé ça pour Laurence Caracalla, co-auteur du livre autobiographique de Loana, intitulé « Si dure est la vie, si tendre est la vie ». C'était pas une sorte de miette plutôt dans le titre? Mais en tout cas, merci. Ça manque de Wemby, mais ça me plaît quand même. Ah, le fait que tout le monde s'interroge s'il peut devenir éventuellement MVP cette année, c'est ça? J'ai vu un article qui disait qu'il était candidat, mais qu'il n'était pas le favori. Voilà, hop, je te résume l'actu. Bim, bam. D'autres questions ? Salut Tom Cornet. Il gagne tout en ce moment. Oui, mais comme il le dit lui-même, c'est un défenseur et ça n'arrive pas souvent que les défenseurs soient nommés Most Valuable Player. Parce qu'en fait, pour être élu MVP, il y a il y a plein de critères extrêmement stricts d'ailleurs. Et l'article était passionnant d'ailleurs. J'aurais pu vous le mettre de côté d'ailleurs. C'est peut-être un regret. Ouais. C'est dans le Parisien, je crois. Oh, merci Lucien. Je l'aime beaucoup, Patrick Beau. Il n'est pas défenseur, c'est comme ça qu'il se présente dans l'article, lui-même. Wembanyama. Donc je te laisse aller lui dire. Ok, Kev, tu prends ton téléphone, t'appelles Wemby, tu lui dis, dis donc, t'es pas défenseur, hein? Qu'est-ce que tu racontes? Je te laisse l'appeler. J'ai pas son numéro par contre. Faudrait que tu le trouves tout seul. On y va les pruneaux? On part sur la route presse? Hey, Wemby, prends pas tes grands airs. J'adore Lucien, elle est pas mal. Prends pas tes grands airs. Joli. Les pruneaux. Ah oui, alors les pruneaux. Oui, je vous appelle mes pruneaux. C'est parce que je vous aime de plus en plus. Et pour une raison que j'ignore, il faudrait que je creuse dans ma psyché perso. Les gens que j'aime bien, je les appelle mes pruneaux. Voilà. Mes enfants, je les appelle mes pruneaux. Voilà. Les gens que j'aime bien, d'une façon générale, j'appelle mon pruneau, mes pruneaux. Je sais pas, peut-être parce que je trouve que les pruneaux ont une bonne tête, que c'est mignon, je sais pas. Est-ce que c'est parce qu'on te fait chier? Non, c'est l'inverse en fait. Les gens que j'aime bien, je les appelle mes pruneaux. Voilà. Et depuis quelques jours, ma commu, je vous appelle mes pruneaux. Voilà, c'est parce que je vous aime bien. Parce qu'on est fripé, peut-être parce que vous êtes un petit peu vieux, ouais. Parce qu'on est laxatif? Non, 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 je sais pas. Je sais pas d'où ça vient. Est-ce que t'appelles tes gosses mes pruneaux? Alors déjà, je n'appelle pas mes gosses. Je déteste ce mot, Moshi, que je trouve. Mais d'une laideur, gosse. Ah là là, c'est tellement magique, l'enfance, coller ce mot de gosse. Gosse qui au Québec veut dire couille, hein, d'ailleurs on le rappelle. C'est bien la preuve qu'il y a un problème avec ce mot. Hein. Ah non, alors gosse, c'est tellement un âge magique, c'est tellement fascinant à observer. Alors franchement, ce mot, la langue française est tellement riche, c'est le pire mot que vous pouvez utiliser pour un enfant, quoi. Oui, mioche, chiard. Si vous n'aimez pas les enfants, dégoûtez pas les autres. Et puis, n'oubliez pas au passage que ce faisant, c'est que vous oubliez vous-même que vous en avez été un et qu'il a bien fallu vous supporter, quoi. Allez, on y va pour la revue de presse? Si j'ai votre go, on y va. Go! Allez, c'est parti. Comme ça, j'aurai pas à répondre aux gens qui n'aiment pas les enfants. Allez, c'est parti. Alors, en ce moment, je trouve que le sujet qui doit commencer la revue de presse, parce que c'est essentiel, c'est le Moyen-Orient, c'est ce qui se passe en Iran. Alors, j'ai deux papiers qui semblent contradictoires et qui ne le sont peut-être pas tant. Un, dans Le Monde, qui nous dit que Trump songe peut-être à une fin précipitée de la guerre, ce qui inquiète, ennuie ses alliés, à la fois Israël et les pays du Golfe. Et l'autre, qui nous dit qu'au contraire, les Américains se préparent à débarquer sur le sol iranien avec des soldats. Lisons ces deux papiers. D'abord, dans Le Monde, la peur d'une fin précipitée de la guerre. Qui a peur de la fin d'une guerre? Personne. Si, sauf si on y a intérêt, et c'est manifestement la crainte de l'État hébreu et des monarchies du Golfe qui nous dit le monde craint que Trump privilégie une sortie bâclée sans véritable résolution. Merci Filigrim. Merci Priscilla. Merci à Wolf. Merci doucement, vous êtes incroyable. Lisons. Et s'il déclarait simplement la victoire? Bon, l'avantage de Trump, c'est que comme il n'a pas vraiment donné des buts de guerre, des objectifs, il peut s'arrêter quand il veut et déclarer qu'il a gagné, comme il n'a pas dit ce qu'il voulait faire. C'est assez pratique. Alors que Trump envisage une issue prochaine à la guerre en Iran, ses alliés au Moyen-Orient s'interrogent. Le président américain prendra-t-il le risque de bâcler sa sortie? Israël et les monarchies du Golfe craignent une fin précipitée de cette guerre, sans véritable résolution. Tout ça pour ça. Rappelons qu'il y a eu des morts quand même. Depuis lundi, le locataire de la Maison-Blanche fait grand cas de contacts préliminaires établis avec Téhéran. Je vous ai beaucoup parlé de ça. Trump dit à qui veut l'entendre qu'il y a des négociations qui seraient en cours avec le régime iranien. Le régime iranien dit pas du tout. Bon. Quelqu'un nous dit pas tout. En dépit des déclarations hostiles du régime iranien, il assurait encore jeudi que les négociateurs iraniens le suppliaient de conclure un accord. Il se faisait dans le même temps menaçant. Il vaudrait mieux qu'ils s'y mettent sérieusement et vite, avant qu'il ne soit trop tard, parce qu'alors il n'y aura plus de retour en arrière. Alors je ne crie pas, hein, vous ne m'en voulez pas, Trump crie beaucoup lui dans ses tweets et met beaucoup de lettres capitales, vous m'excuserez, j'ai posé des questions toute la journée, je ne vais pas crier, mais vous savez que Trump aime bien mettre des mots en grosses lettres capitales quand c'est important. Voilà. Donc plus de retour en arrière. Et ce ne sera pas joli à voir. De toute façon, plus Trump avance en âge et plus il écrit comme un enfant, et ce sera pas joli à voir, c'est... On est plus sur des menaces sous préau dans la cour de récré que dans un échange diplomatique de haute volée, quoi. Prévenait-il le même jour sur son réseau Truth Social. La Maison-Blanche a transmis à Téhéran donc une liste de 15 exigences par l'intermédiaire du Pakistan. Jeudi, en fin de journée, Trump se disait assez satisfait par ce dialogue fort vague, quand même pour reporter son ultimatum au 6 avril. Il ne cesse de reporter cet ultimatum lié au détroit d'Ormuz. Il a dit, si vous ne libérez pas le détroit d'Ormuz, ça va taper très 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 fort. Il ne cesse de reporter cet ultimatum. Mais l'alternative demeure simple, la reddition au diktat de Washington ou l'escalade militaire. Pour l'heure, la position de Trump s'aligne encore sur celle d'Israël, qui... dit-on du côté de Tel Aviv, accepterait un accord sur la plupart des 15 points de Trump. Mais cette liste n'est pas réaliste. Au fond, Israël ne veut en aucun cas d'un compromis qui tiendrait compte de demandes de Téhéran. Vous savez qu'aujourd'hui, l'objectif du gouvernement Netanyahou en Israël, c'est que le régime iranien soit totalement mis hors d'état de nuire pour qu'il ne puisse plus menacer Israël. Donc que Trump arrête aujourd'hui ce conflit, alors que selon Israël, les buts de guerre, qui est de réduire à néant la menace iranienne, ne sont pas atteints, ça ne va pas du tout à Netanyahou. Cela ne pourrait que lui lier les mains en restreignant sa liberté d'intervenir de nouveau en Iran, précise-t-elle. L'État hébreu verrait au contraire, nous dit Le Monde d'un bon œil, une escalade américaine, censée faire plier le régime iranien, un débarquement de Marines dans le Golfe Persique, ça on va en parler dans un instant, ou bien un raid contre des sites nucléaires. Israël craint beaucoup que Trump ne déclare un cessez-le-feu pour permettre des négociations avec l'Iran, poursuit l'analyste là, Shira Efron, qui est une spécialiste, autant pour moi, israélienne du Proche-Orient. Israël craint beaucoup que Trump ne déclare un cessez-le-feu pour permettre des négociations avec l'Iran, ce qui signifierait en pratique abandonner la guerre en état avec un guide suprême qui porte toujours le nom de Khamenei et les 440 kilos d'uranium hautement enrichi, toujours sur place, fameux uranium enrichi qui pourrait servir à la confection d'une bombe atomique. Pour Israël, l'entrée en guerre est en soi un aboutissement. Une issue négociée, donc, ne serait qu'un recul. L'État hébreu entend précipiter l'écroulement du régime iranien, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, ou à défaut, le laisser affaibli, très affaibli, délégitimé et isolé. Il paraît avoir encouragé son allié américain à rêver d'une victoire instantanée, résumée par l'assassinat du guide suprême, Ali Khamenei, dès la première minute du conflit, dont la succession est depuis assurée par son fils Mortaba. Dans un article qu'on a lu cette semaine, il y avait quelqu'un qui s'interrogeait, Trump est-il fou? Est-il un génie? Est-il sous influence, notamment israélienne? Est-il un peu détroit? Voilà. Il y a beaucoup d'interrogations sur le rôle qu'a joué Israël en termes de conseils ou en termes de pression amicale sur Trump pour qu'il déclenche cette guerre. L'armée israélienne a mis en ordre ses priorités, instruite par la précédente guerre de juin 2025 à laquelle Trump avait déjà mis fin après un unique bombardement américain au bout de 12 jours. Elle a privilégié les frappes contre l'appareil de sécurité intérieure du régime, laissant largement irrésolu le problème nucléaire. Elle a aussi planifié les attaques électriques et pétrolières, Trump a repris ses menaces à son compte le 20 mars, poussant Téhéran à annoncer une riposte militaire dans le Golfe. Or, certains des meilleurs connaisseurs de l'Iran, en Israël, s'inquiètent de cette logique d'escalade sans terme. Là encore, la question, c'est le flou des buts de guerre vu des États-Unis. Le régime iranien ne se rendra jamais. Il dispose d'un vaste arsenal de missiles. Il est patient. Il peut s'écrouler ou pas, mais cela ne dépend pas d'un calcul rationnel de notre part, constate Shahar Kaufman, ancien chef du bureau Iran au sein de la division de recherche du renseignement militaire israélien. Nous pouvons continuer de frapper, dit cet Israélien, mais les rendements baissent déjà, c'est comme essayer de vider la mer avec une cuillère. Nous devrions nous concentrer sur des objectifs concrets, isoler l'Iran, dénouer son lien avec le Hezbollah libanais, ce qui est possible aujourd'hui. Washington fait en tout cas face, nous dit cet article du Monde, à un défi plus urgent que tout ce qu'on est en train d'évoquer, rouvrir le détroit d'Ormuz, dont la fermeture, la quasi-fermeture, a des conséquences importantes, vous savez, sur le cours du pétrole et l'économie mondiale, via notamment l'inflation. Téhéran applique une menace vieille de 4 décennies, jamais mise à exécution jusque-là, en s'arrogeant le contrôle de ce nœud du commerce mondial. Depuis une semaine, les monarchies du Golfe exhortent les États-Unis à ne pas entériner cet état de fait. Les monarchies arabes qui constatent amèrement, elles sont bien embêtées au niveau de leurs économies, de leur économie en ce moment, que Téhéran a établi de fait un poste de douane au milieu du détroit d'Ormuz. Je voulais pas tout l'article, je voulais les passages essentiels. Hormuz, c'est un atout dans la main des Iraniens pour ces négociations. Ils pensent que les États-Unis ne peuvent pas les forcer militairement à rouvrir le détroit et ils vont s'en servir comme d'un moyen de pression, estime un général libanais à la retraite, Hassan Jouni, qui est un conseiller aujourd'hui au ministère de la Défense du Qatar. Certains craignent une emprise plus durable. Hormuz n'est pas une simple monnaie d'échange, c'est un nouveau pouvoir que l'Iran exerce, puisque l'article nous rappelle que jamais l'Iran avait bloqué le détroit d'Ormuz. Ils le disent publiquement, si la guerre s'arrête brutalement, sans vrai règlement, ils continueront de bloquer le détroit et prétendront se rembourser de ce que la guerre leur a coûté. En gros, en instaurant un genre de péage sur le détroit d'Ormuz. Cet expert rappelle l'exaspération des alliés arabes de Washington. En soulignant la responsabilité des États-Unis, nous avons un problème plus grand que l'Iran. Ce sont les fondements du commerce mondial qui sont actuellement minés. Voilà pour l'essentiel de ce papier qu'on pourrait résumer ainsi. Merci Valsnoop. C'est adorable. Qu'on pourrait résumer ainsi. Iran, Trump, sous la pression des marchés financiers, des bourses, je ne sais pas ce qu'ont donné les places boursières aujourd'hui, on peut aller voir en deux secondes, de la hausse du cours du pétrole et de ses conséquences sur le pouvoir d'achat des Américains, de la proximité des élections de mi-mandat, de mid-term aux États-Unis, pourrait décider de finalement sortir de ce conflit, voilà, mais de façon désordonnée, sans avoir finalement rien obtenu. Voilà. Et en laissant son allié Israël décider seul de ce qu'il voudrait faire ensuite, et puis les pays du Golfe toujours sous la menace d'un régime iranien encore plus extrême qu'il n'était avant le début des frappes. Salut Samuel, j'avais une question. Pourquoi en Bosnie, les prix des carburants n'ont quasiment pas changé? Alors, je ne suis pas un spécialiste du marché des hydrocarbures sur le territoire bosniaque, je m'en excuse. Je n'ai pas la réponse à ta question. Hop. Alors, j'aime bien quelqu'un qui me dit que les marchés financiers ne dévisent pas encore. Alors, ils ont quand même du mal, quand même. Hein. Allons voir juste pour ces dernières 24 heures. Voilà. Le CAC a à nouveau perdu 1,56%. On avait un CAC qui était largement au-dessus des 8000 points il y a encore quelques jours. Je vois un Nasdaq actuellement qui est en chute, moins 2,24%. Je vois un cours du pétrole de Brent qui est largement au-dessus des 100 dollars le baril de Brent, à 113 dollars, qui est reparti en hausse. C'est pas foufou quand même. Hein. Un baril de Brent à 113 dollars, c'est pour l'économie mondiale, y compris pour l'économie américaine, ça ne va pas, quoi. Et maintenant, on va se pencher sur le papier qui nous parle d'une éventuelle intervention militaire, laquelle sur le sol iranien. Voilà. Les scénarios d'un assaut américain. Alors, ça peut sembler contradictoire avec l'article qu'on vient de lire qui nous explique que Trump pourrait avoir envie de sortir. Pas tant que ça, en fait, parce qu'il peut faire les deux. Les scénarios d'un assaut américain. Donald Trump menace l'Iran de conséquences désastreuses si cette voie maritime détroit d'Ormuz devrait rester fermée. Des milliers de soldats américains sont en train de se déployer dans la région. Que dit Robin Corda dans cet article du Parisien ? Ah, faut changer le sujet, tu as raison. Merci, MG. Hop, voilà. Bien vu. Aux États-Unis, les états-majors passent actuellement à la loupe les îles du détroit d'Ormuz. L'Iran se sert des avant-postes, vous le savez, pour parasiter le fret et le pétrole mondial. La menace d'une intervention terrestre, un temps tabou, plane désormais sur la région. On verra les conséquences concrètes sur l'économie française tout à l'heure, là, notamment avec l'explosion des taux d'intérêt pour refinancer notre dette. Vous verrez que les conséquences, elles ne sont pas à venir, elles sont déjà là, notamment pour un pays comme la France. La menace d'une intervention terrestre, un temps tabou, plane désormais sur la région. On peut faire beaucoup de choses à partir des airs, hein, frappe aérienne, bombardement, mais il doit aussi y avoir une composante au sol. Qui dit ça ? C'est Netanyahou, le Premier ministre israélien. Trois premières cibles se dégagent pour une intervention terrestre. À l'intérieur du détroit d'Ormuz, les îles d'Abu Moussa et les deux Toumb. Qu'est-ce que c'est, ça, Toumb ? Ah, c'est deux îles. Petite et grande Tumb, T-U-N-B, ok, d'accord, qui se trouve au plus loin des côtes iraniennes. Prendre leur contrôle permettrait potentiellement de dégager un couloir de navigation, pas tout le détroit d'Ormuz, mais un couloir le long des Émirats arabes unis. Ce pays pétrolier pourrait pourvoir à l'effort de guerre. Abu Dhabi revendique depuis des décennies les trois îles qu'occupe justement l'Iran militairement. Si une nouvelle agression est lancée depuis leur territoire, les puissantes forces armées iraniennes soumettront Ras al-Khaimah à de lourdes frappes, prévient de son côté l'Iran. Beaucoup plus près maintenant des côtes iraniennes, les îles de Larak, d'Ormuz et de Keshm recèlent sans doute encore davantage d'intérêts stratégiques. Les soldats, alors comprenez les soldats américains, hein, pourraient y détruire des sites de missiles anti-navires, des bases de drones et surtout des stocks d'armes cachées dans des réseaux souterrains. Les approcher nécessiterait de neutraliser les défenses iraniennes, de parachuter des troupes sur des points clés. Stéphane Audran, qui est un consultant en risques internationaux, se dit dubitatif vis-à-vis d'une telle option militaire terrestre. Sur place, les hommes resteraient à portée de la puissance de feu des gardiens de la Révolution. Vous imaginez l'état de l'opinion publique américaine si les GIs se prennent des missiles, des bombes, des drones Shahed sur la gueule. Hein, qui pourraient les harceler au quotidien. Seuls 2 km séparent par endroit l'île de Keshm du rivage iranien. Les hauts gradés américains pourraient plutôt décider de déclencher, donc plutôt que de faire des opérations terrestres pour occuper ces îles, pourraient décider de déclencher des missions dites « hit and run », frapper et fuir. Ces actions coup de poing prennent des bases d'assaut iraniennes, le temps de les saboter avant de s'éloigner le plus vite possible de la zone de danger pour éviter des frappes en représailles. Les mêmes opérations commando pourraient prévaloir sur l'île de Karg. Salut l'enclencheur, tu vas bien ? Téhéran exporte près de 90% de son pétrole par ce rocher, situé à une trentaine de kilomètres de ses côtes. les États-Unis menacent d'y déclencher des frappes, quitte à déstabiliser encore un peu plus les marchés mondiaux. Cette île de Kharg, essentielle pour l'économie pétrolière iranienne, pour l'instant, n'a pas été frappée par les États-Unis, tout simplement parce que ça amplifierait encore plus la crise pétrolière que nous vivons. Pour l'heure, Washington semble donc favoriser encore une solution diplomatique, mais, et c'est souvent ce que fait Trump, tu es d'autant plus fort diplomatiquement que quand tu, parallèlement, menaces militairement de frappe ou de débarquement terrestre, c'est pour ça que ces deux activités ne sont pas forcément contradictoires. Trump assure chaque jour que des négociations sont en cours, un peu, voilà, c'est pas tout à fait ce que disent les Iraniens, mais bon. Les dirigeants iraniens ont intérêt à se ressaisir rapidement. Les majuscules arrivent à nouveau avant qu'il ne soit trop tard, car une fois que ce sera fait, il n'y aura plus de retour en arrière. Bien enclencheur, bien. Les conséquences seront désastreuses, gronde-t-il sur Internet. Le scénario le plus extrême. Quel est ce scénario le plus extrême? Enverrait les troupes américaines, non pas sur ces îles que nous évoquons, mais en profondeur en Iran, pour capturer les fameux stocks d'uranium enrichi qu'entreposerait l'Iran vers les sites disparants de Natanz, pour mettre la main sur ces stocks d'uranium enrichi et empêcher l'Iran de se doter, à court ou moyen terme, de l'arme atomique. Une mission à haut risque. Depuis la Maison-Blanche, le républicain sait comme personne mettre son adversaire sous pression. Dans les opérations qui précèdent généralement les assauts, hélicoptères et avions américains ont, ces derniers jours, déjà commencé à mitrailler les infrastructures des îles du Détroit. Donc, avec peut-être une intervention sur les îles que nous évoquions. Surtout, quels sont les éléments qui nous laissent penser que peut-être une opération terrestre pourrait, beaucoup de conditionnels, se préparer. Quelques milliers de parachutistes de la 82e division aéroportée ont posé le pied cette semaine au Moyen-Orient, sans doute au sein des bases alliées du Koweït, du Qatar, des Émirats arabes unis, en amont de la zone de contact. Un simple go peut les projeter sur le front. Pas tout à fait le même go que vous me donnez au début de la revue de presse, mais un go quand même, quoi. D'autres soldats sont d'ailleurs en chemin. La 31e unité expéditionnaire des Marines, notamment, a reçu l'ordre de quitter le Japon à la mi-mars. Ces grands navires amphibies avancent actuellement vers le golfe Persique avec près de 2000 militaires à bord. À leur tête, deux destroyers puissamment armés escortent l'USS Tripoli, ce type de bâtiment qui transporte notamment des avions de combat F-35, mais aussi des MV-22. C'est quoi des MV-22 déjà? Le Boeing Bell V-22, appareil volant de transport hybride américain. Ah oui, avec ses rotors basculants qui lui permettent de décoller à la verticale. Ok. D'accord. Quel rapport avec Mister MV? Aucun. Peu à peu, le courant change de direction. En Iran, le commandant naval du corps des gardiens de la révolution islamique a un jour qualifié l'île de grande tombe de porte-avions insubmersibles stratégiquement positionnés, contrôlant totalement les voies d'entrée et de sortie du détroit. Israël a annoncé sa mort, hein, de ce commandant naval jeudi lors d'une attaque nocturne sur la ville portuaire de Bandar Abbas. Les frappes contre les hauts responsables iraniens se poursuivent. Voici pour les deux articles que je voulais vous lire ce matin, enfin ce matin, j'ai tellement l'habitude, ce soir sur l'Iran. Je vous lis et on enchaîne. Un général français disait ce matin que 17 000 soldats américains, c'est largement insuffisant, preuve que ce n'est qu'une pression diplomatique sur l'Iran. Alors je sais pas d'où vient ce chiffre de 17 000 soldats américains, parce que moi je n'ai pas ce chiffre de 17 000. Ces derniers jours, on parlait de quelques milliers, 2 000, 3 000, 4 000 soldats américains. Je ne sais pas d'où vient ce chiffre de 17 000. Et puis, à aucun moment dans ces articles n'est évoquée une opération terrestre majeure, large, sur le sol iranien, une tentative d'invasion sur le sol iranien. On parle d'opérations 10 000 plus 5 000 plus 2 000. Oui, mais je vois pas d'où tu sors tes chiffres. Je vois pas d'où sont tes sources. Je ne les ai pas vues, moi. Ces 10 000 et ces 5 000, là. Mais plus sérieusement, à aucun moment, bah après on ne sait pas ce que peut faire Trump, mais personne n'évoque une offensive terrestre massive, hein. c'est pas ça du tout qui est évoqué. Politiquement, de toute façon, vis-à-vis de son. Ne serait-ce que, si on doit retenir que cet argument, ne serait-ce que vis-à-vis de son opinion publique et de sa base électorale MAGA, c'est impossible, hein, qu'il décide d'envoyer des troupes massivement sur l'intégralité du sol iranien, quoi. Comme le dit Chevalier Creux, s'ils envoient des troupes au sol, c'est sans doute le début d'un bourbier sans nom. Salut Lila Potnareff, c'est parce que j'ai question pour un champion en ce moment dans la journée. Impossible, Trump n'est tenu. Pas faux. En tout cas, personne ne l'évoque pour l'instant. Vu la superficie du territoire iranien, les difficultés de transport sur le terrain, le relief iranien, les difficultés militaires auxquelles les soldats américains auraient à faire face, enfin, il faudrait des moyens humains gigantesques qui se traduiraient par des pertes humaines gigantesques. On est d'accord que le président Trump est un président américain, on va dire, particulier, mais je vois pas dans quel monde il pourrait décider, quelqu'un disait un bourbier tout à l'heure, décider de se lancer dans ce qui finirait par ressembler à un bain de sang, quoi, des deux côtés. Oui, particulier, parce que j'essaie d'être chill ce soir. Ok? On en reparle sans doute dans les prochains jours. Je vous emmène sur. Que j'ai que des bonnes nouvelles ce soir encore, comme d'habitude. Sur la dette française? Vous achetez? Enfin. Façon de parler? Go? C'est intéressant, vous êtes plusieurs à me dire que Trump doit parler ce soir, normalement, il va peut-être parler de sa résolution du conflit. Oui, ce serait intéressant qu'il nous dise des choses claires là-dessus, ce serait bien la première fois depuis le débat. Ok. Alors si jamais vous voyez des infos qui tombent sur Trump, quelle heure était 21h10, on peut avoir des choses dans les prochaines heures, n'hésitez pas à me le signaler, je trouve ça très intéressant. Ouais. Priorité à l'actu, comme il dit sur les chaînes info. Allez, on plonge sur la dette, comme nous invite à le faire Sugar. Voici le sujet suivant. Alors je vous en parle de temps en temps, j'essaie de pas vous en parler tous les jours, mais à un moment il faudra, je pense qu'il faut arrêter aussi de se voiler la face. On a un vrai sujet de poids de la dette en France, et on a un titre dans les Échos, alors dont le titre me semblait un peu catastrophique. Puis quand j'ai eu l'article, je l'ai pas trouvé si catastrophique que ça. Je me suis dit non, on est vraiment dans la merde. Merci Sandal équipe, merci Sandal qui pue pour ton soutien, merci Flobibi 5 pour ton abonnement, merci Filigrim. Le piège de la dette se referme sur les finances publiques, que nous disent les Échos. La guerre en Iran fait monter, c'est tout simple, les taux auxquels la France emprunte, voilà, notamment pour rembourser sa dette, et complique l'effort de réduction du déficit public. Selon une projection de l'Institut Rexecode, la charge de la dette, les intérêts. Hein. Qu'est-ce qui nous a fait Moumou là? Oula! Oui, je n'avais pas vu. Merci Sugar. Waouh! Selon une projection de l'Institut Rexecode, la charge de la dette pourrait doubler d'ici à 2030 pour dépasser 120 milliards d'euros. Les intérêts de la dette, hein, uniquement les intérêts. Allez, 120 milliards d'euros par an. Bim! La guerre en Iran, déclenchée il y a un mois par les États-Unis et Israël, pourrait rapidement faire une victime collatérale en France. Tout ça est directement lié au conflit en Iran. Les finances publiques françaises. Elles étaient déjà mal en point, vous le savez, après 5 décennies de déficit cumulé et 2 dérapages spectaculaires en 2023 et 2024, et les répercussions financières du conflit au Moyen-Orient vont encore compliquer le redressement des comptes. Merci Trump. Entre l'ralentissement de l'économie française et la hausse des taux d'intérêt, l'Institut Rexecode vient de publier une nouvelle projection inquiétante. La charge d'intérêt, donc on parle toujours que des intérêts, pourrait doubler en 5 ans, passant d'environ 60 à 120 milliards d'euros, soit près de 3,5% du PIB en 2030. 3,5% de la richesse produite chaque année, dans un pays comme la France qui ne partirait qu'en intérêt de la dette. C'est beaucoup. Les intérêts, qui approchent déjà le niveau du budget de l'éducation nationale, premier poste de dépenses de l'État avec 64 milliards d'euros de crédits prévus cette année hors pension, représenterait ainsi un point de PIB supplémentaire par an dès la fin de la décennie, autant d'argent que la France devrait économiser sur ses autres budgets, ou prélever en impôts supplémentaires, au risque de pénaliser encore l'activité. Donc, quand il n'y a plus d'argent, ou tu fais des économies, ou tu augmentes les impôts, ou tu fais les deux, à un moment, tu as un souci. Il va falloir faire donc des arbitrages de plus en plus difficiles. Vous verrez, l'article se termine, je crois, par « Bonne chance à celui ou à celle qui sera élu président ou présidente en 2027 ». Cela va obérer notre capacité à financer les grandes transformations énergétiques dont nous avons besoin, numériques, démographiques. Vous voyez bien qu'il n'y a plus d'argent dans les caisses et qu'il n'y a pas de grands projets aujourd'hui au niveau de l'État, tout simplement parce qu'il n'y a plus une thune. Sans parler de l'effort de défense, puisqu'on est en train de nous expliquer qu'il faut réarmer. Alors, je ne parle pas de démographie, là, mais bien réarmer la France, avoir des moyens, une armée avec plus de moyens, parce que les menaces sont en train d'augmenter, ça ne vous a pas échappé. Souligne l'économiste de Rex et Code, Anthony Morlaix Lavidali. Cette remontée spectaculaire de la charge de la dette n'est pas une totale surprise, nous disent les Échos. Dans les projections publiées par le gouvernement à l'automne déjà, on est en mars, le remboursement des créanciers devait monter rapidement jusqu'à atteindre 3,2% du PIB en 2029. En fait, ce qui est nouveau, c'est que ça va peut-être arriver plus vite. Il y a Chosanne qui dit « Ça fait un moment que chaque président empire la situation puis passe le relais avec une bonne chance. » Ça n'est pas faux. Chaël me dit « Bonjour Samuel, est-ce que tu as la gentillesse de dire bonjour à Lola ?» qui découvre depuis hier tes lives et ta revue de presse, qui est impressionnée par ton travail. Et elle t'a jamais vu en gamer encore. Qu'elle ne vienne pas sur mes lives de gaming. Mais Lola, merci beaucoup d'être là. Merci à Chaël, merci à tous les deux, vous êtes adorables. C'est vraiment très gentil. Donc la nouveauté, c'est que ça arrive plus vite. En effet, Bercy misait sur deux hypothèses qui ont du plomb dans l'aile. D'une part, un déficit public qui baissait rapidement pour baisser sous les 3% en 2029. Ça, les promesses de réduire le déficit, on les connaît. Avec une première marche à 4,7% en 2026 déjà enterrée, bim, et une seconde à 4,1% l'an prochain qui va sans doute être enterrée également. D'autre part, le Trésor avait fait l'hypothèse à l'époque conservatrice, c'est-à-dire prudente, de taux d'intérêt à 10 ans remontant progressivement de 3,7% à 3,8% pour poursuivre en pente douce jusqu'à 4% en 2029. Mais là, mauvaise nouvelle, après un début d'année prometteur qui avait vu les taux descendre autour de 3,2%, le conflit en Iran les a fait brutalement remonter et ils dépassent déjà 3,8% actuellement. La marge que nous avions prévue sur les taux n'existe plus. Ils vont probablement rester à des niveaux élevés à moyen terme. Alors que, attention, le problème arrive, la France va devoir refinancer d'énormes volumes de dettes. Accrochez-vous, c'est là que ça devient intéressant. Car la France roule, alors non pas un six feuilles, mais son énorme stock de dettes de plus de 3 500 milliards d'euros. Il y a la charge de la dette et il y a la dette. La dette, c'est 3 500 milliards d'euros. Autrement dit, elle rembourse pas sa dette, la France. Elle ne fait que payer les intérêts. Mais à un moment, des emprunts, ça arrive à terme. Donc qu'est-ce qu'elle fait pour rembourser les emprunts qu'elle a faits? Elle reprend d'autres emprunts. C'est ça, faire rouler la dette. Autrement dit, à mesure que les titres arrivent à échéance, en moyenne au bout de 8 ans, elle réemprunte sur les marchés pour rembourser ses créanciers, mais, aïe, à des taux moins favorables. Petit à petit, une proportion croissante de ce stock de dette est financée à des taux élevés. Et la facture grimpe vite, selon Bercy, toute hausse d'un point d'intérêt coûte 3 milliards dès la première année, 7 milliards dès la seconde, plus de 18 milliards au bout de 5 ans. Eh oui. Ah oui, aïe, comme dit Gros le Mage. Ce mécanisme s'est mis en place il y a déjà plusieurs années, mais il risque d'accélérer plus vite que prévu. Si la charge de la dette représente 3,5% du PIB dès 2030, comme le calcule l'Institut Rex et Code, ce sera un an plus tôt que dans les dernières projections à très long terme de Bercy qui avaient été publiées à la fin de l'année 2024. Ce niveau n'est pas une première historique. Au milieu des années 90, déjà, on a vu des intérêts qui avaient représenté jusqu'à 3,6% de la richesse nationale, vous voyez. Mais aujourd'hui, la configuration est moins favorable car le stock de dette est près de deux fois supérieur. La pression va donc aller croissant sur les finances publiques, prédit Anthony Morlaix Lavidali. Il faut souhaiter bon courage au gouvernement qui arrivera en 2027. Voilà. Voilà, je vous lis. MMG dit que ce sera un sujet majeur de la campagne présidentielle. Oui, sauf si les politiques mettent ça sous le tapis, hein, comme ça arrive parfois, en faisant mine d'ignorer le problème. Je vous lis, je vous lis, je vous lis, je vous lis. Comment rembourser cette fameuse dette d'après toi? Est-ce qu'il y a une solution? Mais en fait, il ne faut pas rembourser cette dette. C'est bien d'avoir de la dette. La dette, c'est ce qui permet aussi de lancer de grands chantiers, de grands chantiers de transformation du pays. Le problème, c'est plus la charge de la dette, les intérêts. Donc, il ne faut pas rembourser la dette. La France ne remboursera jamais sa dette. Mais ce qu'il faut, c'est que limiter l'expansion de cette dette pour que la charge de la dette, les intérêts, eux, ne pèsent pas trop sur notre budget. C'est deux choses différentes. Donc, la question n'est pas tant de rembourser notre dette, mais c'est de maintenir la dette avec une charge, donc les taux d'intérêt, supportables pour notre budget, pour que bah, le travail de notre pays, enfin le fruit du travail, les taxes, les impôts sur les sociétés, sur les ménages, aille financer justement. De l'aide sociale pour ceux qui en ont besoin, du soutien aux entreprises si on estime que c'est nécessaire, le financement des ministères dont on estime que il faut renforcer leurs moyens, plutôt que juste filer ça à nos créanciers, quoi. C'est ça l'idée. Si la dette croît sans cesse, c'est un problème quand même, il y a une redistribution. Oui, pour la raison que je viens d'évoquer. En raison de la charge de la dette. Mister, il se passe quoi si on décide d'arrêter d'essayer de rembourser il se passe quoi si on décide d'arrêter d'essayer de rembourser cette dette définitivement? Bon, alors prenez mes propos avec prudence, hein, vous savez bien que je ne suis pas économiste. J'essaye autant que faire se peut de répondre à vos questions, mais je ne suis ni un économiste, ni même un journaliste spécialisé en économie. Mais. Si tu cesses brutalement de rembourser cette dette, la confiance que les créanciers. Faut savoir que notre dette, elle est détenue en partie par les épargnants français et en partie par les épargnants étrangers, à travers plein de mécanismes. Cette confiance, elle s'écroule et bien, du coup, on ne te prête plus du tout. Et là, ton économie s'écroule. Boum! Du jour au lendemain. Et alors dans ce cas-là, le FMI peut venir à ton secours. C'est ce qui a pu se passer par exemple avec la Grèce à une époque, mais là, on t'impose de l'extérieur des mesures d'austérité sur ton pays. Et là, hop, les retraites baissent, les salaires des fonctionnaires baissent, etc. Enfin, tu baisses tout, quoi. C'est l'austérité pendant X années d'un pays en faillite. Attention, on n'est pas les seuls, hein, on n'est pas le seul pays. Et on n'est pas la seule grosse économie au monde à avoir ce sujet, hein, ce souci. Hein. Nous ne sommes pas isolés avec ce sujet-là. Hein. Encore une fois, le problème n'est pas tant la dette que la charge de la dette. Et là, comme les taux d'intérêt sont en train de monter, ben, cette charge de la dette, elle augmente. Et pourquoi les taux d'intérêt montent? C'est notamment en raison de ce conflit du Moyen-Orient. C'est QFD. Oui, la dette américaine est stratosphérique à Gapion. Alors le problème, c'est que les Américains, certains économistes disent que les États-Unis vivent à crédit avec une dette gigantesque depuis hyper longtemps, quoi. Mais jusqu'il y a peu de temps, la monnaie internationale, c'était le dollar. Ce qui est en train de changer, tout doucement, mais en train de changer. Le dollar est de plus en plus faible dans ce rôle de monnaie dominante et internationale. Le jour où le dollar ne sera plus la monnaie de référence pour les échanges internationaux, ça va devenir très très compliqué pour les États-Unis. C'est pas tout de suite, mais ça va devenir très, ce sera un vrai souci. Oui, c'est vrai, avoir de la dette est très positif dans la gestion d'une entreprise ou d'un pays, bien sûr, mais à condition que l'investissement puisse avoir son retour. La balance entre dépenses qui rapportent et dépenses réelles est mauvaise pour la France. Oui, bien sûr, la dette n'est pas une mauvaise chose en soi. Il y a aussi ce qu'on fait avec cet argent, quoi. Si la dette est là, comme dans un ménage d'ailleurs, pour financer un train de vie au-delà de ses capacités réelles, voilà, et non pas financer les dépenses d'investissement pour préparer le futur du pays, bah, déjà, ça veut dire que cet argent, il est mal utilisé. Et d'ailleurs, dans les conséquences là immédiates, vous le voyez, avec le gouvernement Lecornu, aujourd'hui, il n'y a pas de grands projets politiques lancés en France, il n'y a pas de grandes réformes potentiellement coûteuses sur un plan environnemental, par exemple, ou sur un plan de transformation de notre économie, ou un grand plan, etc. Des grands plans de transformation de notre pays, de notre économie pour affronter les défis qui se posent à nous aujourd'hui, tout simplement parce que cet argent, il n'y en a pas, il n'y en a plus. Donc un pays qui a une dette trop forte et une charge de la dette trop importante, c'est aussi un pays qui, à un moment, ne peut pas s'endetter de façon supplémentaire pour financer justement des plans d'investissement, notamment de transformation, qui, eux, sont nécessaires. Mais encore une fois, je ne suis pas économiste et encore moins journaliste économiste. Donc là, c'est ma petite analyse de café du commerce. Prenez ça avec beaucoup de pincettes, mais je trouve très intéressant que vous vous intéressiez à ces sujets. Voilà. Peut-être qu'on aura l'occasion de les creuser peut-être dans les prochains mois, notamment à l'occasion peut-être de la présidentielle si ça devient un sujet, quoi. Salut, Ovega. Non, mais c'est exceptionnel, c'est parce que j'ai des questions pour un champion en journée en ce moment. Ok? On enchaîne? Allez, sujet suivant. De toute façon, on aura l'occasion d'en reparler, il va passer des... Vous inquiétez pas, elle va pas partir comme ça. Hein. Alors, l'enchaînement est un petit peu hardcore. On va parler de Gims, l'ancien maître Gims. Le musicien, le chanteur, le rappeur, dit le Parisien. Parce qu'on a appris il y a 2 jours qu'il avait interpellé la sortie de son avion, interpellé quand même, hein. Dans une enquête de blanchiment d'argent en bande organisée. Et là, il y a du nouveau. Le Parisien nous disait ce vendredi matin qu'il avait été maintenu en garde à vue. Au Café du Commerce, on se dirait, ben, pour que la justice décide de mettre en garde à vue et de maintenir en garde à vue une personnalité comme Gims, c'est qu'ils ont un peu de biscuits, ils ont un peu de matos, ils se posent des questions. Voilà. Et quelqu'un me disait tout à l'heure qu'il avait été même mis en examen, information qu'on va aller vérifier. Voilà. Quelqu'un me dit même à l'instant qu'il a été libéré, me dit Renan. Alors, ça n'est pas contradictoire, hein. Tu peux être mis en examen et libéré. Si les enquêteurs estiment qu'à l'issue de leur garde à vue, ils ont ce qu'ils veulent, quoi. Allons voir les dernières infos sur Gims, d'ailleurs. Voyons. Alors, mise en examen, ok, ça c'est confirmé. Alors, la libération sous contrôle judiciaire, me dites-vous, je ne l'ai pas là sous les yeux, mais on va la trouver aussi. Il y a 47 minutes, je vois des articles là, le HuffPost, 41 minutes, il y a 2 heures, mise en examen, on peut voir le Figaro par exemple, pardon pour le blanc, attention à vos yeux, le chanteur Gims mis en examen dans une affaire de blanchiment en bande organisée, est-ce que je vous ai mis le sommaire? Ouais, ok. C'est quand même fou cette histoire, hein? Stop. L'artiste congolais, 39 ans, avait été interpellé le 25 mars. Donc c'était il y a 2 jours, par les douanes à la sortie de l'avion, Mise en examen, c'est ce qu'on appelait dans l'ancien français, on disait inculpé. D'ailleurs, en gros, il y a des charges qui officiellement sont retenues contre toi et qui annoncent une instruction et peut-être un procès, quoi. L'artiste congolais de 39 ans avait été interpellé il y a 2 jours par les douanes à la sortie de l'avion à son arrivée à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle. Alors, j'ai jamais su s'il venait du Maroc ou de Dubaï, peut-être que ça précise. Des scènes musicales au terrain judiciaire, le rappeur Gims a été mis en examen ce vendredi soir dans une affaire de blanchiment en bande organisée, donc c'est ce soir, après le Figaro. L'artiste a été laissé sous contrôle judiciaire, c'est bien ce que vous disiez, ils sont forts, hein, le chat. Hein. Il n'y avoir eu connaissance d'un quelconque agissement frauduleux ayant permis de financer son projet immobilier à Marrakech. Donc l'histoire, c'est ça, c'est qu'il a un énorme projet immobilier à Marrakech, la justice le soupçonne d'avoir eu connaissance d'un agissement frauduleux ayant permis de financer ce projet. Voilà. La mégastar a été remise en liberté, comme vous le disiez, à l'issue de sa mise en examen pour blanchiment aggravé et placée sous contrôle judiciaire avec l'obligation de verser un cautionnement, montant pas précisé. Dans le détail, le roi de la chanson francophone est poursuivi pour concours en bande organisée à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit d'un délit. Donc ça potentiellement blanchiment d'argent de la drogue, par exemple. Hein, a indiqué de son côté le parquet national anticriminalité organisée. Le PNACO. Pas confondre avec le PLACO. Hein, ça n'est pas du BA13. Hein, c'est un parquet. Oh, du coup, c'est très bizarre. Un parquet... alors c'est... C'est pas du BA13, c'est du parquet. Cette phrase est énorme. Il lui a également reproché un blanchiment en bande organisée de biens ou fonds provenant d'un délit de fraude fiscale aggravée. On a l'impression qu'on est chez Bricorama, là. Parmi les autres mesures de son contrôle judiciaire, le chanteur doit s'abstenir de recevoir ou de rencontrer certaines personnes spécialement désignées par les juges d'instruction. Donc il a interdiction de rencontrer certaines personnes. Voilà. Il doit aussi informer le magistrat instructeur de ses déplacements. Le PNACO rappelle qu'à ce stade, Gims demeure présumé innocent.
Bien sûr.
Gims ainsi que 2 de ses collaborateurs avaient été interpellés mercredi à la descente d'avion à l'aéroport de Roissy par les douanes dans le cadre d'une vaste affaire de blanchiment présumé. Au cours des 2 derniers jours, l'artiste de son vrai nom, Gandhi Juna, ah oui, Gandhi, okay, a été soumis aux questions des enquêteurs qui le soupçonnent d'avoir participé de près ou de loin. Attendez, peut-être que dans quelques jours, on va se rendre compte qu'il n'y a rien. Hein? Ok. À ce réseau de blanchiment en bande organisée. Selon le site d'information Africa Intelligence qui avait révélé cette garde à vue, ce réseau de blanchiment international pourrait impliquer une myriade de sociétés spécialement constituées dans différents pays pour se jouer de la TVA et autres taxes françaises, faciliter l'émission de fausses factures, blanchir des fonds provenant d'activités illégales et en dissimuler l'origine. C'est beaucoup quand même. Cinq ex-trafiquants de drogue reconvertis dans la criminalité financière. C'est bien de se reconvertir, parce que parfois on reste bloqué dans un espace professionnel. Je me sens un peu à l'étroit, et puis j'ai moins de plaisir qu'avant. Donc là, manifestement, c'est les trafiquants de drogue qu'on voulait se réinventer, qui sont peut-être allés à France Travail et qu'on trouvait quelqu'un pour conseiller une réorientation. Et donc, ils sont partis sur la criminalité financière. Voilà. Le média spécialisé, l'Africa Intelligence, affirme que les enquêteurs s'intéressent notamment à ce vaste projet immobilier de luxe promis par Gims à Marrakech au Maroc, l'une des villes où il réside. Baptisé Sunset Village Private Residence, alors je vous assure que je n'ai pas fait d'investissement dans ce complexe, parce que vous savez que je vais souvent au Maroc parce que j'ai de la famille qui vit là-bas. Je voudrais solennellement ici dire que je n'ai pas de relation avec Monsieur Gims, que je n'ai pas fait d'investissement immobilier au Maroc et que je ne connais rien de cette affaire. Voilà. Je vous le jure, Monsieur le juge. De même que je n'ai pas touché d'argent du CNC. Baptisé Sunset Village Private Residence, ce projet en cours de 118 villas de grand luxe avec terrain de sport, spa, sauna et hammam, ça a l'air bien, autour d'un lagon de 3000 m² avait été lancé en grande pompe en 2025 en présence de Gims. Voilà. Donc là, on avait le Figaro, l'IB il y a 2 heures. Est-ce que... Alors, en fait, les articles prennent beaucoup les dépêches, vous voyez, c'est des dépêches AFP. Donc, en fait, d'un article à l'autre, vous allez trouver à peu près les mêmes infos, quoi. Je trouve que ça manque un peu. Alors, c'est un peu con ce que je veux dire, mais depuis 2 jours, on lit des dépêches. On lit essentiellement des dépêches de l'agence France-Presse. J'ai l'impression que les médias que je consomme d'habitude, Libération, Figaro, etc., là, j'ai l'impression qu'ils ne font pas leur propre papier, ils ne font pas leur propre recherche. Donc, et on passe d'un article à l'autre et on trouve les mêmes infos. Ça manque un petit peu de contextualisation, ça manque un petit peu de chair, ça manque un petit peu de biscuit, ça manque un petit peu d'enquête. Peut-être qu'ils vont le faire, mais pour l'instant, il n'y a rien, quoi. Oui, c'est sur Spotify, ouais. Ah oui, c'est sur toutes les plateformes de podcast, Soydog. Ah oui, il y a Soydog qui me dit, mais Samuel, petite question hors sujet, elle est rediff sur Spotify? Sinon, ça peut être une bonne idée. Comme le fait Klemovic, l'ami Klemovic. Point d'exclamation podcast, on est sur toutes les plateformes de podcast. Nous faisons près de 300 000 écoutes par mois, mesdames et messieurs, sur les plateformes de podcast. La revue de presse, la matinée Étienne, qui est une soirée Étienne, fait près de 300 000 écoutes chaque mois. Sur les plateformes de podcast. C'est énorme. Près de 300 000. On est à 280 000. On a commencé en septembre. Ça va acheter de la villa au Maroc. Ça va acheter du. Comment il s'appelle le truc? Ça va acheter de la villa, je sais pas quoi là. Ah non, c'est incroyable. Allez, le savoir est une arme, t'as le droit à un historique parce que ça fait 2-3 messages que tu fais le malin là. Ça va, les capas, mais à un moment c'est. Quand ça n'est que ça, à un moment c'est fatigant, hein. Tu peux faire un effort? Tu peux faire un effort? Patrick Beau qui est mon invité, Vaglette. Dimanche, ça me plaît. Ouais, mais quand c'est systématique, c'est fatigant. Quand on essaie d'être une communauté qui réfléchit un petit peu à l'actualité, là, c'est too much, en fait. Merci. Axolot, exactement. Ça revient, ça me plaît? Dimanche, 20h. Donc, vous voyez, en allant d'un article à l'autre, on ne trouve pas beaucoup d'autres informations, quoi. Voilà. C'est toujours les mêmes infos, en fait. Je trouve qu'on en manque un peu d'infos là-dessus, quoi. Voilà. Alors vous me disiez qu'il a été 41 minutes, oui, ben c'est Le Monde, ouais, peut-être. Attends un peu, bientôt les villas seront en promo. Je suis pas sûr que c'est là qu'il faille acheter quoi. Qu'est-ce que dit Le Monde? Est-ce que Le Monde. Ah, Le Monde a un peu bossé, vous voyez, là, c'est pas une dépêche AFP qui est citée. Vous avez deux noms de journalistes, c'est intéressant. Jérôme Le Filiatre et Thomas Saint-Ourens. On a peut-être un peu plus d'actu dans Le Monde. Donc effectivement, il a été remis en liberté, comme vous le disiez, hein, à l'issue de sa mise en examen et placé sous contrôle judiciaire. Ok. Ah, il y a des infos en plus, il y a des infos en plus. Il y a des infos en plus. Il y a des infos en plus, ouais. Oui, mise en examen, ouais. Selon les informations du Monde, voilà. Alors quand je disais, je trouve que les journalistes n'ont pas beaucoup travaillé sur le sujet pour l'instant. Selon les informations du Monde, la mise en examen du rappeur congolais de 39 ans, bah, il disait 38 tout à l'heure, non? Est liée à une colossale affaire de blanchiment international sur laquelle la justice française travaille depuis 2023, mesdames et messieurs. Depuis 3 ans. Un dossier super. Donc c'est le truc qui n'est pas nouveau. Il n'est pas nouveau, hein. En fait, son nom vient de pop dans ce dossier. C'est ça qui s'est passé. Vous allez voir que dans quelques jours, peut-être qu'on va avoir d'autres noms. Peut-être de créateur de contenu. Merci ordinateur, merci nuage blanc. J'invente, hein, c'est pour vous faire rire. À un moment, il y en a marre de l'actu anxiogène, si on peut pas dire deux, trois conneries. Donc, dossier supervisé par deux juges d'instruction, l'un spécialisé en affaires économico-financières, l'autre expert en criminalité organisée. 15 individus ont déjà été mis en examen dans ce dossier, donc 5 actuellement détenus. Donc l'affaire est en cours. Le schéma de fraude, peut-être qu'on va en savoir un peu plus, qui se dévoile un peu à peu dans cette enquête au long cours, porte sur des sommes estimées lors d'une première vague d'interpellation et de mise en examen survenue en 2025 à un total de 319 millions d'euros, sur la période 2019-2025. Mais le montant de cette escroquerie de grande complexité pourrait être beaucoup plus important encore. Le réseau qui suit un schéma de blanchiment classique se distingue par sa taille gigantesque, c'est pas la taille qui compte, mais en la matière si quand même, révélatrice d'une économie souterraine éprouvée. Il implique plus de 2000 sociétés domiciliées en France, le truc est énorme. À la base, se distingue un système organisé de collecte d'espèces sur tout le territoire français. Collecte d'espèces, c'est pas très bon en général. De l'argent issu d'activités illégales ou non déclarées liées à divers trafics. Il y a forcément un peu d'argent de la drogue là-dedans. Ces espèces sont ensuite distribuées à une première catégorie d'entreprises. Il faut blanchir tout ça, bien sûr. Qui ont souvent une activité économique réelle, faisant office de vitrine, par exemple dans le bâtiment. La rénovation énergétique ou la sécurité privée, par exemple, tu vas payer une partie de tes salariés dans le bâtiment en cash, tu vois. Et donc, ça fait tourner la boîte qui, elle, va avoir un chiffre d'affaires clean. Voilà quoi. Le cash récupéré par leurs dirigeants peut leur servir, voilà, c'est ce que dit Le Monde, à rémunérer des salariés au noir, à distribuer des pots de vin ou à satisfaire leur train de vie. Chez l'un des chefs d'entreprise soupçonné d'avoir abondamment utilisé ce mécanisme, plus d'un demi-million, un demi-million d'euros en espèces a été retrouvé. Le mec, il a 500 000 euros en cash, en petite coupure, chez lui. Mais monsieur, mais d'où vient cet argent? J'ai fait un retrait. Mais j'ai fait un retrait. J'ai fait un retrait au distributeur. Quand tu vois comment c'est impossible de tirer beaucoup de thunes au distributeur, et il a dû en faire des retraits. C'est incroyable. T'imagines 500 000 dollars euros, pardon. La petite souris qui est passée. Il a dû en perdre des dents. Contre cet avantage sonnant et trébuchant, ces sociétés donc légales, qui ont pignon sur rue, transfèrent de l'argent par virement à d'autres sociétés dites blanchisseuses qui, elles, la plupart du temps, sont des coquilles vides administrées par des gérants de paille. Pour donner une apparence de légalité à tout ça, des fausses factures sont émises par ces sociétés fictives au nombre d'une cinquantaine. L'argent ainsi touché, blanchi par ces intégrations à des flux bancaires, est ensuite viré vers les comptes d'entreprises installés à l'étranger, au Portugal, en Hongrie, en Bulgarie, dont les têtes de pont du réseau sont les véritables propriétaires. Bon, ça, ce genre de mécanisme, ça existe depuis déjà un moment, quoi. À la tête de cette organisation pyramidale, dans une affaire où serait impliqué Gims, comme par hasard, désolé. À la tête de cette organisation pyramidale, les enquêteurs pensent avoir identifié un homme originaire de la région parisienne qui vit aujourd'hui au Maroc. De l'autre côté de la Méditerranée, il se présente en entrepreneur respectable, possédant des établissements de restauration, des cliniques spécialisées. Quel est le lien exact entre Gims et ce réseau de fraude à grande échelle? C'est ça la question. Encore une fois, dans quelques jours, on va peut-être se rendre compte que Gims est totalement innocent, qu'il ne savait pas, qu'il a peut-être été manipulé, ou on lui a menti, enfin, vous voyez. La piste suivie par les enquêteurs des douanes mène en particulier à un complexe de 117 villas en construction à une dizaine de kilomètres au sud de Marrakech, baptisé Sunset Village Private Residence. Ce projet immobilier exclusif propose sur catalogue des maisons tout confort. J'espère que vous n'avez pas acheté des maisons là. Il y a quelqu'un qui a acheté une maison là? On ne parle pas de Maître Gims, rassurez-moi. Si, c'est Gims maintenant, on ne dit pas Maître Gims. Si, Gims. Le rappeur, quoi. Qui propose sur catalogue des maisons tout confort au bord d'un lagon de 3000 mètres carrés niché aux portes du désert, mais à moins de 15 minutes de l'aéroport international. Aux portes du désert? À 10 km au sud de Marrakech? Aux portes du désert? Le désert à 10 km de Marrakech? J'ai un doute, là. Au niveau de la géographie, là. Comment j'ouvre le truc là? Ah voilà. Ouais.
Marrakech. Voilà. Il n'y a pas de désert là. Hein. Le désert, le vrai désert, le Sahara, il est au sud. Voilà. Alors oui, il y a des petits déserts de pierre, des petits déserts de cailloux, là, le désert d'Agafay par exemple. Vous avez quasiment. Vous avez un campement hôtel tous les kilomètres maintenant. Tu parles d'un désert. Non. Les gars, à un moment, il faut bosser sa géo. Hein. On pourrait pas avoir une carte du Maroc là plutôt là. Attends, j'ai trouvé ça. C'est beaucoup plus bas. Hein. Oui, ça commence à voir Zazat. Voilà, exactement. Ouais. Je sais, j'ai couru par là, moi. Carte du Maroc. T'en donner des portes du désert, moi. À un moment, il faut bosser la géo. Hein. On a une carte du désert, là. Ouais, c'est pas mal, ça. Hop. Voilà. Alors, Marrakech, c'est là. Vous voyez, là. Donc, on est quand même plutôt. On n'est pas au nord du Maroc. Hein. Voilà. Et en fait, le désert, le Sahara marocain, enfin, ce que certains appellent le Sahara marocain, ça commence plutôt à partir de Ouarzazate. Ouais, Marathon des Sables, deux fois. Voilà. Non, je pense qu'il parle du désert d'Agafay, qui est un désert de pierre. Qui est un désert de cailloux, en fait. Donc, c'est un petit détail, mais c'est une petite approximation dans l'article. Niché aux portes du désert, mais à moins de 15 minutes de l'aéroport international, t'as l'impression que t'as des dunes de sable à 10 km de Marrakech, c'est complètement faux, quoi. La star aux lunettes noires. J'enlève mes lunettes. Ah ben, je peux plus lire. Merde. La star aux lunettes noires a publiquement affiché son attachement à ce projet spectaculaire immobilier, donc là, il y a quand même des trucs. Apparaissant dans plusieurs vidéos promotionnelles, vantant ce quartier de luxe sécurisé. Ah, il est dans les vidéos, ok, bon. Donc, ok, il est vraiment impliqué dans le projet. Ça veut pas dire que c'est un criminel. Dont il occupa puis loua la villa la plus exclusive d'une superficie de 1200 mètres carrés. C'est bien ce 1200 mètres carrés. Avec sauna, hammam, salle de fitness et cinéma. Résident au Maroc depuis plus de 10 ans, l'interprète des tubes sapés comme jamais, parisienne ou encore Ninao, cherchait à diversifier ses sources de revenus dans son pays d'adoption. Selon les informations du Monde, le projet immobilier à deux pas de Marrakech n'est pas le seul investissement à intriguer les enquêteurs parmi les partenariats entre le chanteur et l'affairiste qui animerait le réseau frauduleux. Donc la question, c'est quels sont ses liens avec le gars, là, un peu bizarre. Hein. Les investigations, loin d'être closes dans ce dossier, promettent d'autres avancées au fil des mois à venir. Le feuilleton, quoi. Un calendrier judiciaire dont devra s'accommoder le chanteur, dont les affiches pour la tournée 2026, baptisée Carpe Diem Tour, ornent ces jours-ci les murs du métro parisien. Ah, il est en tournée? Comment ça, incarcéré comme jamais? Non, 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 non. Alors, encore une fois, soyons sérieux. C'est-à-dire qu'il y a un truc. Le gars a été interpellé. Il a été mis en garde à vue. Sa garde à vue a été prolongée. Donc, ça veut dire que les mecs, ils ont un petit peu de biscuit, ils ont des trucs. Il a été mis en examen. Mais encore une fois, il faut que, après, il faut qu'il y ait une instruction, après, il faut qu'il y ait un procès. Et ça se trouve, on va se rendre compte dans quelques jours, ou quelques semaines, ou quelques mois, qu'il y a R. Hein. Voilà, comme le dit Sugar, ça se trouve, le gars s'est fait rouler sans savoir. Hein. On lui a promis des rendements intéressants. Hein. Mais voilà, t'inquiète, on s'occupe de tout. Voilà. C'est peut-être pas quelqu'un de malhonnête, vous voyez ce que je veux dire? Donc soyons très prudents là-dessus, quoi. Moi, pas de blague, quoi. Pas de blague. Et puis si on se rend compte que bah, non, il a fait des bêtises, et bah, on en parlera aussi. Dans le merdier comme jamais. Oui, c'est pas fou. Je vous lis un petit peu sur le sujet et on enchaîne. Sapé comme jamais, Samuel, t'as pas compris la référence. Si, la chanson, Sapé comme jamais. Putain, j'adore quand les viewers me prennent pour un débile. Et t'as dépensé des points de chaîne pour ça? Oh putain. Allez, on peut rembourser les points de chaîne à Atero Project, là, s'il vous plaît? Pauvre. Merci, ordinateur. Oui, on va te rembourser parce que vraiment, c'était raté, là. Mais tu sais, Sam, la chanson des jeunes, là, sapé comme... Parce que sapé comme jamais, en fait, c'est une chanson. Sapé comme jamais. Oui, on connaît. à suivre donc. Mais je retire ce que j'ai dit sur le fait que, vu que tu connais, tu peux la chanter. Oh non, non, oh non, pour faire chanter Samuel, t'as dépensé des points de chaîne. Oh, je la connais pas, je la connais pas la chanson. Non, on est en pleine revue de presse. Bonjour. YouTube. Allez, c'est parti. Je suis en forme, de toute façon, je suis crevé. Quand je suis crevé, je fais n'importe quoi. Parole. Chanter comme jamais. Non, saper comme jamais. Saper comme jamais. Je la connais même pas, cette chanson. Qu'est-ce que je trouve, là? Il y a les paroles? Featuring. Non, on veut pas un feat. Ah si, le feat, c'est obligatoire, c'est, ça va dedans? Voilà. Eh oui, mais il a dépensé ses points de chaîne, Kotal, je suis obligé, c'est dans les points de chaîne. Non, puis je suis... Il y a Niska, forcément? Non, parce que de toute façon, je suis hyper crevé. Quand je suis crevé, je fais n'importe quoi, donc là, je vais chanter, là. Eh oui, oui, en pleine revue de presse. Bah oui, oui, oui. Il n'y a pas les paroles? Non, mais je veux les paroles, moi. Ça paie comme jamais. Ah non, il n'y a pas les paroles. Là. C'est marrant comme chanson. J'ai jamais écouté de ma vie. Alors j'écoute une première fois, je vous le fais après. Hein. Truc, ok, j'essaye, hein. Ça va être ridicule, mais bon, vous avez payé, hein. Vous avez payé, ok, j'essaye, allez, je m'applique.
Vous n'avez pas payé pour tout ça.
Écoute, c'est la première fois que j'écoute la chanson. C'est la première fois que j'écoute la chanson. Voilà, bon, bah maintenant, la prochaine fois que je parlerai de l'affaire Gims, de blanchiment d'argent, bah au moins je saurai un petit peu quel est le paysage musical qu'il y a derrière. Voilà. En fait, ça m'a fatigué. Je suis dans un rêve lucide, dit Dina Scorpio. Oui. Désolé pour ce que je viens de vous... Alors, les habitués, les anciens de cette chaîne savent qu'à une époque, je chantais sur cette chaîne parce que j'adore chanter, j'adore la musique, j'adore danser mal, je chante encore plus mal, et à une époque, je chantais, voilà, y compris ici. Je faisais un peu du karaoké. Et à un moment, j'ai compris que c'était contre-productif. Nous perdions des viewers. Nous perdions plusieurs centaines de viewers à chaque fois. Enfin, j'ai arrêté. Voilà. Peut-être que ce soir, nous avons perdu des viewers, d'ailleurs. Voilà. Donc, nous avons renoué avec cette sombre... Donc, on a perdu des viewers. On a perdu des viewers ce soir. Voilà. Ça a recommencé. Donc, nous avons renoué ici avec cette sombre période. Ah. Madame Gesmer, merci de ne jamais recommencer à jouer au tonton en fin de soirée. Merci Madame Gesmer pour ton soutien. On a perdu 200 viewers. Bah oui, comme d'habitude. Désolé. Et oui, donc voilà pour l'affaire Gims. Mais en même temps, est-ce que ce n'était pas nécessaire pour parler au plus juste de cette affaire, hein? Je vous rappelle qu'à un moment, il faut savoir de quoi on parle. Et moi, je ne connais pas la musique de Monsieur Gims. Et là, ben, au moins, cette chanson mythique et bien connue, sapée comme jamais, ben maintenant, on peut dire que non seulement je la connais, mais même, je dirais, je la maîtrise. Je la gère. Voilà. Donc voilà, on sait à peu près où on en est maintenant, quoi. Alors là, je vais me calmer parce qu'on va parler d'une histoire qui est ô combien triste, dont je vous ai déjà parlé il y a deux jours, qui est la mort de Loana. C'est vous qui me l'avez appris il y a deux jours, le soir. On est tout de suite allé voir des articles et puis on a trouvé des articles, sa biographie. Et hier, je vous ai dit, certains me demandaient d'en reparler, et je vous ai dit, bien sûr, ce sera dans le podcast, les pauvres. Est-ce que tu peux en reparler? Et hier, j'ai répondu par un négatif parce que je n'avais pas trouvé d'article qui nous permettait d'aller beaucoup plus loin. Et là, j'ai trouvé deux beaux articles, très forts, très bien écrits, enfin surtout le premier et le deuxième qui posent des questions qui me semblent importantes. Donc je voulais les partager avec vous parce que ça me semblait poser des questions intéressantes. D'abord, il y a un très bel article, c'est un peu bizarre à dire, mais je trouve très bien écrit, qui, quelque part, rend hommage à cette femme, signé dans le Figaro, Laurence Caracalla. Loana, une figure tragique de la télé-réalité, la vedette de l'émission Loft Story sur M6, a connu une célébrité tonitruante, puis l'oubli, avant de sombrer dans la misère. Sa mort sordide clôt le chapitre. Pourquoi sordide? Parce qu'on va apprendre par ces articles que quand elle a été retrouvée, les enquêteurs se sont rendus compte que qu'elle était morte depuis son tour. Sans doute plusieurs jours, peut-être plusieurs semaines, donc seul, dans un grand isolement, donc, d'où ce mot sordide ici. Elle fut le symbole fragile et pathétique d'un monde où les princesses ne règnent qu'une saison. Lisons. Elle n'aura jamais 50 ans. Comme Marilyn, son idole, le monde ne la verra pas vieillir. Loana Petrucciani, dont on a appris la mort le 25 mars dans son appartement niçois. Qu'y a-t-il de plus désolant? Apprendre la disparition d'une femme dans la fleur de l'âge ou ne pas être surpris par cette terrible fin? Le bal des hypocrites va pouvoir commencer, attendons-nous à voir des larmes, des mines affligées, des incompréhensions de la part de ses prétendus amis. Mais où étaient-ils ses amis quand elle avait besoin d'eux? Qui a pris de ses nouvelles quand elle était au fond du gouffre? On les compte sur les doigts d'une main, ceux qui, 25 ans après le Loft, prenaient soin d'elle. Monde sans pitié. Pourtant, Loana ne leur en voulait pas. Chez elle, aucune rancune, aucune malveillance. Au contraire, elle continuait à leur en être reconnaissante. Les modos. Pardon, si vous voyez dans le chat des gens qui crachent sur la mémoire de cette femme qui vient de mourir, vous me les virez illico. C'est-à-dire que dans le monde dans lequel on vit, il faut avoir un minimum de décence. Je n'ai rien lu, je préfère juste prévenir. N'est-ce pas, Vroombulette? Un minimum de décence, un minimum de correction, on parle de quelqu'un qui vient de partir, quoi. Ok? Vroombulette, j'ai rien dit? Est-on enfin fané la fleur quand même? C'était quoi? Je lis tout, je vois tout. Je continue. Pourtant, Loana ne leur en voulait pas, chez elle aucune rancune, aucune malveillance, au contraire, elle continuait à leur en être reconnaissante. Ne devait-elle pas, à la télévision, d'avoir vécu un peu son rêve ? C'est peut-être ce qui aujourd'hui est le plus navrant, elle ne s'est jamais rebiffée, ne s'est jamais plainte de cette exposition inhumaine. Après tout, elle avait cherché, mais avait seulement oublié le prix qu'il fallait payer. Ne nous y trompons pas, elle continuait à être aimée du grand public malgré ses frasques, malgré sa déchéance. Oui, elle était aimée, admirée, souvent plainte parfois. Tout le monde avait presque oublié la jeune fille qu'elle avait été tant elle avait changé. Seul son regard demeurait le même. Elle avait beau essayer de sourire quand elle avait mal, ses yeux disaient tout, cette mélancolie existentielle, qui peut encore prétendre ne l'avoir jamais remarquée. À peine débarquée dans le loft, 2001, ça nous renvoie à très longtemps, cette grande plante à peine vêtue avait dû jouer un rôle, celui de la bimbo et pourquoi pas celui de la briseuse de couple. Erreur de casting, elle était une amoureuse, la femme espérait-elle d'un seul homme. En quelques jours, le téléspectateur avait fondu pour cette incorrigible romantique qui pleurait toutes les larmes de son cœur pour un jouvenceau qui se souciait d'elle comme d'une guigne. C'était après la scène de la piscine. La France entière ne parlera que de leurs ébats dans une piscine, tandis que Loana, elle, rêvait d'une véritable histoire d'amour. La vie est ainsi faite, elle est impitoyable. On ne peut comprendre Loana sans remonter le temps. Revenir sur les pas d'une petite fille mal aimée. Ses parents n'avaient sans doute pas les armes pour élever une enfant, et puis trop de misère, trop d'alcool, trop de violence. Elle racontera les humiliations, le désespoir, son sentiment d'abandon avec une sincérité déconcertante. Là encore, elle ne voudra jamais à sa mère, Violette, d'avoir fait ses bagages, la laissant seule avec ce père brutal qui, avant d'aller la coucher, lui demandait de répéter à la petite fille qu'elle était « Plus tard, je serai une pute comme ma mère ». Loana confiait ce cauchemar avec une surprenante sérénité. Devant la mine effarée de son interlocuteur, elle balayait ce souvenir d'un revers de main et passait à autre chose. Elle aura toujours préféré parler d'avenir, seule façon d'oublier ce passé douloureux. Y est-elle jamais parvenue ? Une gifle de trop et Loana fait ses bagages. Elle a 16 ans, pas un sou en poche. Elle se fait engager dans une boîte de nuit cannoise et devient go-go danseuse. Il faut bien gagner sa vie. Sans diplôme, sans qualification, difficile de payer un loyer, soudain elle découvre un pouvoir qu'elle ignorait jusqu'ici, elle est belle, les hommes en sont fous, elle peut en jouer, la suite on la connaît, candidate dans la première télé-réalité française, hein, le Loft. Elle espère gagner un peu d'argent, n'imagine pas une seconde que son nom est déjà sur toutes les lèvres. Ne sait pas non plus que cette nouvelle notoriété a des travers, un journaliste découvre que contrairement à ce qu'elle avait affirmé, elle a une fille, Mindy. On dit qu'elle l'a abandonnée, elle certifie qu'elle s'est battue en vain pour la récupérer. Cette petite fille devenue grande ne veut plus entendre parler de sa mère, ce sera son plus grand chagrin, il y en aura d'autres. En sortant du loft, victorieuse, Loana est célébrissime. Elle se fait un prénom, faute de se faire un nom. Elle est à la une des magazines, elle est assaillie de propositions. La petite canoise est d'abord prise de panique, mais se laisse bien vite emporter par ce monde factice. Elle apprend vite. Pardon. J'ai loupé une ligne. Si sa vie personnelle est en lambeaux, elle se jette à corps perdu dans ce qu'elle croit être un métier, star. Elle apprend vite, tente de ne pas tomber dans le piège des interviews, sourit quand elle n'en a plus l'envie. Loana fait le job. Bientôt, elle raconte sa jeunesse dans un livre, Miette, qui deviendra un best-seller. Défile pour Jean-Paul Gaultier, son meilleur souvenir, disait-elle. Devient styliste pour une chaîne de magasins bon marché, s'enivre chaque nuit dans les boîtes à la mode. La lofteuse monte les marches du Festival de Cannes, fantasme de petite fille, sort même un disque qui bien sûr sera un tube. Tout l'été, on chantera « Comme je t'aime ». 200 000 exemplaires vendus, Loana pense que c'est gagné, les lumières ne vont pas tarder à s'éteindre. « Mettez-moi en face de 1000 hommes, je choisirai toujours le pire », disait-elle. Elle n'a pas tout à fait tort, Loana n'offre pas son corps si facilement, mais son cœur. Cette petite fille s'abandonne dans les bras de celui qui lui promet de l'aimer toujours. Elle y croit dur comme fer, elle en a tellement besoin. Sa célébrité empire les choses. Combien ont profité d'elle ? Combien de dealers, de sales types ? On pourra lui reprocher d'avoir accordé sa confiance à n'importe qui, mais il n'y avait qu'elle pour ne rien regretter. Pourtant, c'est avec eux, pour eux, qu'elle a le plus souvent sombré. Une prise de poids impressionnante, des paroles incohérentes, le regard vide, c'est ainsi qu'on la retrouvera quelques années plus tard. C'en était fini de la ravissante lofteuse au corps de rêve, elle était une autre. Quand Thierry Billard, éditeur chez Plomb, me proposa de coécrire ses mémoires, donc en fait la journaliste ici, qui écrit ce papier, qui est très bien écrit, je trouve, Laurence Caracalla, elle a coécrit les histoires de Loana, donc elle connaît bien l'histoire. d'écrire ses mémoires, sa vie après le Love, j'ai d'abord été perplexe. Et l'éditeur dit à cette écrivaine que Loana est une femme touchante. Là, il manque une partie de l'article, je vais aller chercher tout de suite, c'est page 16 dans le Figaro du jour, c'était ici, voilà. Une femme touchante, fragile, certes, mais surprenante, très intelligente. Loana avait envie de raconter sa vérité, mais il fallait trouver le bon moment, on le savait, elle connaissait déjà des hauts et des bas. Dans une brasserie du Châtelet, j'ai fait sa connaissance, raconte donc cette femme. C'était plutôt un test, elle avait demandé à travailler avec une femme et voulait obtenir sa confiance. J'ai d'abord été surprise par son aspect, elle paraissait sereine, surprise aussi par sa timidité, par ses sourires qu'autour d'elle on ne cessait de lui adresser. De nous deux, c'est elle qui avait le trac, nous nous sommes plus, l'aventure pouvait commencer. Elle ne voulait rien cacher, ce livre était fait pour ses fans, il était nombreux à ne pas lui avoir tourné le dos, c'en était fini de miettes, elle avait des choses à dire. En quelques années, elle avait été meurtrie dans son âme, son corps. Loana répétait « Je me vois comme un phénix qui renaît de ses cendres ». En quelques années, elle voulait tourner la page, même si elle pesait une tonne, la médiatisation elle connaissait, ne maîtrisait pas toujours, mais elle n'était pas aussi naïve qu'on voulait nous le faire croire. Sur son compte Instagram, des centaines de messages d'admiration, au moins autant de moqueries, une cruauté sans nom, à l'image de ce qu'elle inspirait. Elle avait peu à peu perdu sa grâce, on lui en voulait, d'autres l'encourageaient, ce sont ces propos-là qu'elle retenait, elle désirait reprendre sa vie en main. Intelligente, oui, elle l'était, écrit l'autrice de cet article. En ces temps où les stars de télé-réalité et autres influenceuses nous accablent de leur faute de français et de leur orthographe approximative, Loana détonnait. Durant nos entretiens, je me souviens d'un discours précis, d'un vocabulaire surprenant. Elle avait voulu écrire par elle-même la préface de son livre et n'avait pas eu à rougir de sa plume. Car on confond trop souvent candeur et bêtise. Loana n'était pas vraiment naïve, elle était optimiste. Dans une période où tout s'éclaircissait pour elle, elle fondait de grands espoirs sur son avenir. Pour la sortie du livre, elle était heureuse de faire la couverture de Elle, rappelle Thierry Billard, mais elle n'agissait pas comme une petite fille euphorique. Elle avait conscience que c'était important pour elle, pour sa reconstruction. Elle prenait ce moment très au sérieux. Loana parlait... Excusez-moi, je vais rester sur cet article, parce que là, il manque un petit bout. Loana parlait souvent d'amour, fantasmait l'homme idéal, celui qui partagerait un jour sa vie, qui la protégerait du pire. Je crois qu'elle faisait peur aux gentils. Elle attirait les autres. Ce prince qui la délivrerait de ses idées noires, elle ne l'a jamais rencontré. Elle avait raison, il l'aurait peut-être sauvée. Le livre terminé, elle continue à m'envoyer des petits signes d'amitié et puis plus rien. La presse à scandale s'est chargée de m'informer, les nouvelles n'étaient pas bonnes. Loana, trop fragile, avait renoué avec ses vieux démons. Ses rares apparitions à la télévision montraient une femme que je ne reconnaissais pas. Ce n'était plus la Loana touchante et apaisée, elle paraissait nerveuse, parlait comme une mitraillette, s'exposait encore et encore aux moqueries. On parlera ce soir de sa présence sur le plateau de TPMP, de Cyril Hanouna, chaîne de C8, à cette époque-là, puisque c'est de ces passages télé dont parle ici l'auteur. Elle ne nous aurait pas entendus. Pardon, on avait envie de lui dire d'arrêter, de se donner en spectacle, elle ne nous aurait pas entendu, elle était déjà loin dans cet univers flou où les excès prennent toute la place. Malgré les malheurs endurés, je vous l'avoue, si c'était à refaire, je ne changerais rien à ma vie, disait-elle. Ces mots sont de Loana et résonnent aujourd'hui tristement, pourtant ils lui ressemblent, les regrets, elle n'en avait aucun. Adorée, conspuée, moquée, désirée. Elle avançait, titubait parfois, tombait aussi, mais se relevait. Cette fois, elle n'en a pas eu la force. Que restera-t-il de Loana ? Souhaitons qu'on ne garde pas la caricature que l'univers médiatique se complaisait à faire d'elle, ce petit être désespéré soumis au jugement des uns, au ricanement cynique des autres, car ce n'était pas elle. N'oublions pas la femme resplendissante qu'elle a aussi été et qu'elle a tenté par tous les moyens de redevenir. Elle aurait pu y parvenir. Le destin en a décidé autrement. Quand j'ai lu ce papier, ce matin, je l'ai trouvé très beau, je l'ai trouvé très tendre pour Loana, d'une femme qui la connaissait, puisqu'elle avait coécrit ses mémoires, donc Laurence Caracalla, et j'ai trouvé que c'était un bel hommage. Voilà. Et alors, on va aller un peu plus loin, avec un autre article. Où est-ce qu'il est ? Je suis dans le Figaro, pardon. Je vous l'ai mis ici. Dans Libération, cette fois, sur les interrogations sur... Alors, les responsabilités. pas tant dans ce qui lui est arrivé et ce qu'il était devenu, mais les questions sur ceux qui ne lui ont pas tendu la main au moment où elle en avait besoin, quoi. Cet article dans Libération, il s'appelle « Le monde de la télévision entre contrition et résignation ». Lors de ses dernières apparitions télé, Loana laissait entrevoir une profonde détresse ignorée par la sphère médiatique. Après l'annonce de son décès, producteurs, diffuseurs et téléspectateurs cherchent des coupables. Après l'avoir révélé, la télé a-t-elle tué Loana? Vertige, 25 ans après avoir été scrutée 24 heures sur 24 dans le loft, la Niçoise de 48 ans a été retrouvée morte mercredi à son domicile, son décès remontant à plusieurs jours. Merci, Sugar. Selon le parquet de Nice. Une fin tragique, entrevue au fil de ses récentes apparitions médiatiques entre troubles alimentaires, addiction à la cocaïne et multiples tentatives de suicide. Alors, au lendemain de l'annonce de son décès, le milieu de la télévision balance entre embarras profond et fatalisme, pardon. Animateur de l'émission au début des années 2000, Benjamin Castaldi est le premier à avoir évoqué une forme de culpabilité. La vérité, dit l'animateur, c'est qu'on est tous un peu responsables. Parce qu'on a tous regardé, parce qu'on a tous commenté, parce qu'on a tous à un moment détourné les yeux quand ça devenait trop dur, a-t-il écrit mercredi soir sur Instagram. Sur les réseaux sociaux, on cherche des coupables. Est-ce que c'est la production du Loft en démol? Est-ce que c'est son président, Stéphane Courby? Est-ce que c'est son diffuseur, M6? Ancien vice-président de la chaîne, Thomas Valentin, en est resté à évoquer sur X sa grande tristesse, en déclarant « Loana avait marqué Loft Story par sa gentillesse, sa sincérité, mais aussi sa fragilité et son immense sensibilité. » Aux manettes de l'émission, en 2001, on trouve surtout Alexia Laroche-Joubert, aujourd'hui PDG de la société de production Banijay France, toujours aux côtés de Stéphane Courby. Elle avait gardé le contact avec Loana, continuant, dit-elle, de payer le loyer de son appartement à Nice. Elle lui avait aussi trouvé un psychiatre, selon ses propos mercredi soir et Paris Match. Donc, ça, c'est Alexia Laroche-Joubert qui le raconte. Hein. Elle y est allée deux fois, puis elle a arrêté. Tu ne peux pas aller contre quelqu'un qui ne veut pas se soigner. La seule chose que je lui disais, c'était si tu as un problème, on est là. C'est tout ce que je pouvais lui dire. Interrogée en 2022 par Libération, Alexia Laroche-Joubert racontait déjà la déflagration qui avait été l'émission. On a tous été submergés. Moi, j'avais 30 ans, ça nous a dépassés. Tout en se refusant à parler d'exploitation des candidats, notamment en ce qui concernait Loana, et disait en télé-réalité, les femmes sont très puissantes. Ce sont elles qui ont gagné le plus d'argent. Ce sont elles qui tenaient les émissions. C'est humiliant de penser qu'elles sont victimes. C'est facile de critiquer ceux qui étaient à la tête de ce programme. Personne n'avait le mode d'emploi à l'époque. Abonde un producteur qui donc défend Alexia Laroche-Joubert ou Stéphane Courby. Ils ont pensé bien faire leur boulot, les candidats se sont retrouvés avec d'énormes propositions professionnelles à la sortie. Cette première saison du Loft fut néanmoins celle qui essuya les plats de la télé-réalité, et c'est pour ça que l'émission a fait un tel carton à l'époque. Ils étaient dans la naïveté absolue, continue ce même producteur. Les choses sont un peu plus cadrées aujourd'hui, il y a une vraie enquête sur ceux qui sont castés pour voir s'ils tiendront le choc de 10 semaines de programme, avec aussi la possibilité d'avoir un accès au psy de l'émission à la sortie. À l'automne 2024, Amazon est revenu sur le phénomène Loft Story avec la série culte sur sa plateforme Prime Video, en partie produite par Laroche-Joubert. Selon le Parisien, M6 a prévu de la diffuser mardi soir. Quoi, mardi soir prochain? Encore. L'appel au secours de Loana, si il y en a eu un, c'est à ce moment-là, juge une personnalité de la télévision. C'est là où les gens auraient dû réagir. À l'époque, la candidate est à nouveau interviewée, donc on est en 2024, dans Voici ou sur le plateau de Cyril Hanouna. Une dernière tournée médiatique. Quelques mois plus tôt, le 5 février 2024, Loana avait déjà été reçue dans Touche pas à mon poste, hein, sur C8, apparition dans un état de détresse absolue, l'ex-lofteuse racontant notamment son viol avec de grosses difficultés d'élocution, pendant que les chroniqueurs en plateau étouffent des ricanements. Une séquence qui vaudra à la chaîne, aujourd'hui disparue, hein, C8 n'existe plus, puisqu'ils n'ont pas eu de renouvellement de leur autorisation d'émettre par l'ARCOM, une mise en garde de l'ARCOM. Mediapart révélera par la suite que la présence de Loana était monnayée à hauteur de 3 000 euros par la production de TPMP. Petite parenthèse, je rappelle que c'est l'actionnaire, le patron actionnaire du groupe qui possédait C8, notamment à cette époque, qui a été invité récemment par la Commission nationale de l'audiovisuel public, à l'Assemblée nationale donc, pour qu'il puisse nous dire, Monsieur Bolloré, son avis sur le service public de l'audiovisuel. Je trouve assez intéressant, on en parlera demain, je pense que je ferai un petit réact, je trouve très intéressant que la Commission ait invité le patron d'un groupe qui a cautionné ce genre de télé pour lui demander son avis sur le service public. Je ferme la parenthèse. L'ancienne candidate de télé-réalité va néanmoins apparaître une dernière fois à la télévision dans un documentaire en cours de montage et bientôt diffusé sur M6, Loft Story, Anatomie d'un phénomène. Un documentaire qui, s'il voulait vraiment aller au bout de l'examen, pourra aussi s'intéresser au dernier suspect de cette affaire, le téléspectateur. Ces millions de paires d'yeux qui se sont repus de ce spectacle voilà 25 ans, sur Instagram mercredi soir, l'écrivain Nicolas Mathieu, son effet le porte-parole. Admettons qu'il fallait nourrir les cochons et que nous avons tous fait un peu gruic dans cette bauge. Nous avons épié ces 20 ans et marchandé ces secrets. Cela ne fait pas de nous des assassins, mais ce corps vendu à nos curiosités, déjà froid, nous trouve ce soir un peu mal à l'aise. Qui n'a pas l'impression à cette heure d'avoir ne serait-ce qu'un peu contribué à un abus ? Voilà les deux articles que je voulais vous lire. Ce soir. Je vous lis et on enchaîne. Bon, en tout cas, je trouve les articles intéressants, quoi. Et merci pour vos commentaires. Je pense que le minimum de décence ce soir, c'était de quelque part de rendre un peu un hommage à cette femme qui est partie. En tout cas, on y reviendra demain parce que je pense qu'il serait intéressant de. J'ai un peu hésité à faire ce react parce que je me suis demandé si c'était pas une perte de temps, mais je pense que ce week-end, on fera un react du passage de Vincent Bolloré devant la commission de l'Assemblée sur le duel public, parce que je trouve que ça pose quand même énormément de questions. Voilà. On verra ça demain. Alors, parlons des GAFAM maintenant, qui aux États-Unis ont été condamnés récemment à deux reprises. Est-ce que le vent est en train de tourner ? Est-ce que de plus en plus, il y a une prise de conscience sur le pouvoir non encadré, non contrôlé ? Merci le médecin geek pour le raid, c'est adorable. Des GAFAM, voilà, avec un manque de modération, avec un manque de protection des plus fragiles, des plus jeunes. En tout cas, il y a des condamnations qui commencent à tomber. Voilà. Alors, je vous ai mis deux articles de côté, avec un article dans La Croix et un article, un édito, précisément, dans Le Monde. Est-ce que je vous ai mis Oui, je vous ai mis le titre. Lisons. Je vous ai rien mis pour YouTube ce soir, mais on aurait peut-être pu mettre. On a presque pu mettre Gims. Vous savez quoi, je vais dire à Mathieu de mettre. C'est assez intéressant ce qu'on a fait sur Gims. Ce soir, je trouve, on va le mettre sur YouTube. Du coup, je vais faire un lancement maintenant que Mathieu collera au début. Vous êtes prêts? Attention, c'est la triche. Hein. On est en acting. On va mettre ça comme ça. 3, 4. Bon, ne me dénoncez pas la police du mensonge. 3, 4. Amis de YouTube, bonjour. Vous êtes non pas dans la matinée étienne, mais dans la soirée étienne. En ce moment, je suis en question pour un champion. Donc, l'actualité, c'est le soir. Et dans l'actu, on voulait vous tenir au courant de ce qu'il est désormais convenu d'appeler l'affaire Gims, qui vient d'être le chanteur, le rappeur mis en examen. C'est parti. Incroyable. Oui, je sais, le sommaire brise l'illusion parce que le sommaire n'est pas au bon endroit, mais j'avoue. Le sommaire n'est pas au bon endroit, oui, j'avoue. C'est pas grave. Et après, Mathieu, il va couper puis il va coller. Donc, j'en viens au GAFAM. La condamnation des GAFAM, est-ce que c'est un tournant pour les réseaux? C'est la question que pose Lacroix. Je trouve ça hyper intéressant. Un jury californien a jugé mercredi, donc c'est tout récent, qu'Instagram et YouTube étaient responsables d'avoir alimenté la dépression d'une adolescente à cause de leur fonctionnalité addictive. Ce verdict inédit porte un coup sévère aux réseaux sociaux et crée un précédent pour des milliers de procédures judiciaires en cours. Voilà. Ça pourrait, et de 1, coûter beaucoup d'argent à ces GAFAM, et de 2, à peut-être les pousser enfin à faire quelque chose pour davantage de modération et protéger peut-être les plus fragiles et les plus jeunes. Lisons l'article de Lacroix. Il aura fallu 40 heures interminables de délibération réparties sur 9 jours pour que le couperet tombe enfin. Dans un verdict inédit visant des géants de la tech, les 12 jurés d'un tribunal civil de Los Angeles ont jugé mercredi Instagram et YouTube responsables d'avoir créé des fonctionnalités conçues pour entretenir une dépendance chez leurs utilisateurs. Ils ont estimé que les deux plateformes avaient ainsi alimenté la dépression de la plaignante qui avait développé à l'adolescence une addiction sévère aux réseaux sociaux, y passant jusqu'à 16 heures par jour. Le jury a reconnu Meta et Google coupables de négligence pour ne pas avoir averti l'utilisatrice des dangers de leur plateforme. Alors il y a Sugar qui dit que ça tombe sur YouTube et Insta en premier, c'est un peu le comble. C'est pas fou en vrai. Parce que c'est clairement pas les pires. Ces manquements ont constitué, mais ça veut dire que ça va arriver pour les autres aussi. Hein. C'est que ça va sans doute arriver pour les autres aussi. Ces manquements ont constitué un facteur substantiel des problèmes de santé mentale rencontrés par la jeune femme, ont estimé les jurés, alors que les avocats des deux géants de la tech eux, s'étaient évertués tout au long de ce procès. Vous imaginez les moyens qu'avaient dû mettre les deux dits géants pour ne pas arriver à ce verdict, à imputer ces troubles à des traumatismes familiaux et personnels antérieurs. Lors de son témoignage devant le tribunal, la jeune femme de 20 ans avait notamment estimé que les filtres de beauté proposés sur des applications comme Insta, qui permettent de modifier son apparence physique sur des photos, avaient contribué à l'apparition chez elle d'une dysmorphie corporelle, un trouble psychique grave qui peut entraîner une anorexie. Comment fait-on pour qu'un enfant ne repose jamais son téléphone? C'est ce qu'on appelle l'ingénierie de l'addiction. Meta et Google l'ont conçu, ils ont intégré ces téléphones dans les ces fonctionnalités dont les téléphones avaient argué l'avocate de la plaignante. Les jurés ont ordonné mercredi aux plateformes le paiement de lourds dommages et intérêts, 6 millions de dollars, qui devront être versés à la plaignante, 70% à la charge de Meta, 30% à YouTube. Une décision qui intervient au lendemain de l'annonce d'un autre verdict, ça n'est pas tout, qui avait déjà provoqué des secousses dans la Silicon Valley, le jury d'un tribunal civil de Santa Fe, cette fois au Mexique, a déclaré mardi Meta responsable d'avoir mis en danger les dizaines de milliers d'utilisateurs mineurs au sein de cet État en les exposant à des contenus inappropriés et à des prédateurs sexuels. Ils avaient ordonné au groupe de verser 375 millions de dollars de dommages et intérêts. Il y a Itzvez qui vient d'écrire dans le chat, c'est vraiment peanuts à propos des 6 millions. Tiens, voici 375 millions de dollars. Et je te rappelle que l'article vient de dire que des procédures comme ça aux États-Unis, il y en a des milliers. Au final, ça va peut-être finir par faire un peu d'argent. Ces deux verdicts qui reconnaissent le caractère dangereux des plateformes marquent un tournant pour les géants de la tech qui s'étaient jusqu'ici abrités derrière la responsabilité individuelle des utilisateurs. Ils créent un précédent pour les milliers de litiges similaires aux États-Unis qui n'ont pas encore été jugés. Dans les deux procès, la stratégie adoptée par les avocats des parties civiles s'est révélée payante. Plutôt que s'en prendre aux contenus toxiques abrités par les plateformes, qui sont protégés par des protections juridiques liées à la liberté d'expression, ces derniers avaient choisi de s'attaquer pour la première fois aux outils créés par les entreprises de la Silicon Valley. Un angle d'attaque utilisé dans les grands procès contre l'industrie du tabac dans les années 90, les verdicts prononcés mardi pourraient représenter pour Meta et YouTube leur moment Big Tobacco, estime ainsi un journaliste du magazine Fortune. Il y a 30 ans, la justice américaine avait porté un coup sévère au secteur du tabac en reconnaissant que les compagnies avaient sciemment commercialisé des produits addictifs tout en dissimulant des risques pour la santé des consommateurs. L'impact du verdict de mercredi sur les plateformes reste toutefois incertain. Google et Meta, d'abord, ont annoncé qu'ils vont faire appel. Je pense qu'ils ont un petit peu d'argent pour payer des avocats. Les fonctionnalités conçues pour retenir les utilisateurs sont cruciales pour leur modèle publicitaire. Ils auront donc tout intérêt à les défendre devant les tribunaux. Note un professeur de droit à l'Université de Californie du Sud. Petite pause. Ah, pour se détendre. Alex, tu me files un peu de sous de France TV, Étienne. Alex, est-ce que tu peux préciser de quelle somme tu parles, s'il te plaît ? Je m'aère un petit peu. Alex, A-L-A-I-K-X-S-E. Est-ce que tu peux me préciser de quelle somme tu parles ? Parce que tu dis, tu me files un peu de sous de France Télévisions. Est-ce que tu peux me préciser de quelle somme tu parles ? Ici, une information doit être sourcée, doit être précise. Parce que je pense que tu as dû t'informer sur cette somme que tu évoques et tu dois donc avoir un chiffre à me donner. J'attends. Que tu émets une information, c'est donc que tu as trouvé cette information, que tu en as vérifié la source, et tu as sûrement un chiffre à nous donner. Alex, on n'a pas toute la nuit, comme dit Étienne, donc si tu pouvais nous préciser un petit peu le montant auquel tu penses, que je puisse te faire un virement. Vous me prévenez quand on a un chiffre ? Hein, je ne veux pas prendre en otage le chat. Voilà. Vous me prévenez quand on a enfin un chiffre et une info. Merci beaucoup. Je continue l'article. Pour l'expert, Meta et Google pourraient être contraints à l'avenir d'émettre des avertissements sur leur plateforme, mettant en garde contre leurs effets addictifs pour les jeunes utilisateurs ou bien instaurer un système de permission parentale. Plusieurs élus du Congrès américain ont de leur côté espéré mercredi que ce verdict pourrait donner un nouvel élan au Kids Online Safety Act, un texte bipartisan comprenant démocrates et républicains, qui entend sécuriser les plateformes pour les mineurs. Vous avez compris que pour ma part, je pense qu'effectivement, il est temps d'avancer sur ces sujets, ici aux États-Unis, mais aussi en Europe. Nous ne pouvons pas nous reposer uniquement sur les tribunaux, a affirmé un sénateur démocrate, qui s'appelle Ed Markey. Le Congrès doit faire sa part et imposer de véritables garde-fous à ces plateformes. Vous avez compris que j'en suis aussi partisan. Est-ce qu'on a la réponse circonstanciée et précisée de M. Alex dans le chat sur la somme qu'il voudrait que je lui vire, s'il vous plaît ? Où est-ce qu'il est parti ? Faire des recherches ? Non ? Oh, zut. Parce que moi, j'étais prêt à lui faire un virement, mais il fallait encore qu'il me donne un chiffre. On n'a pas toute la nuit, quand même.
Eh oui, ça méritait, il a pris de l'argent.
Alors, combien ? Bon, je continue la revue de presse. Dès que vous avez des nouvelles d'Alex, vous me tenez au courant. Voilà. Alors, il y a un édito du Monde sur le sujet. Que dit-il ? Les dangers des réseaux sociaux enfin reconnus par la justice. Les 24 et 25 mars, deux décisions de justice qu'on vient d'évoquer ici dans La Croix, rendues au Nouveau-Mexique et en Californie, marquent un tournant dans la reconnaissance des dangers que représentent les réseaux sociaux pour les mineurs. Pour la première fois, Meta, Facebook, Instagram et Alphabet, YouTube, ont été condamnés pour avoir mis en danger de jeunes utilisateurs en les exposant à des contenus addictifs avec de graves conséquences psychologiques. Aux États-Unis, l'article 230 de la loi de 1996, Communication Decency Act, exonère les réseaux sociaux de toute responsabilité quant aux contenus publiés par leurs utilisateurs. En gros, si je ne dis pas de bêtises, ils sont diffuseurs, mais ils ne sont pas éditeurs, quoi. L'accusation a donc contourné la difficulté et cette loi en s'attaquant non pas au contenu, hein, puisqu'ils disent « bah c'est pas nous », mais à la façon dont les plateformes captent l'attention des plus jeunes, donc aux outils utilisés pour augmenter le temps passé sur leurs écrans dans le seul but de générer davantage de profits publicitaires. Et là, on va commencer à parler de l'algorithme. Malinx, le lynx. Des milliers de pages de courriels internes, de présentations stratégiques, de notes de direction de ces entreprises ont montré que les dirigeants connaissaient précisément ces mécanismes et les encourageaient. C'est ballot, parce que du coup, il y a des preuves, il y a des documents. La lecture automatique des vidéos, les recommandations ultra personnalisées, les flux infinis, les notifications permanentes ne seraient pas des dérives mal maîtrisées, mais constituent le cœur même du modèle économique de ces plateformes. La justice a donc sanctionné le choix volontaire, délibéré, de rechercher la captation de l'attention des plus jeunes au détriment de leur santé mentale, même si les montants des condamnations restent symboliques, hein, vu le chiffre d'affaires et les bénéfices de ces boîtes, moins d'un millième de pourcent du chiffre d'affaires des groupes concernés, et que les entreprises ont décidé de faire appel. Ces deux décisions de justice, écrit Le Monde, pourraient enclencher une dynamique capable de fragiliser la ligne de défense des géants de l'Internet, fondée jusqu'ici sur l'irresponsabilité, on n'y est pour rien, et la neutralité technologique. Uniquement en Californie, plus de 3000 procédures, uniquement pour la Californie, 3000 procédures similaires devant les tribunaux sont déjà en cours d'instruction. Ce tournant rappelle les procès historiques contre l'industrie du tabac, où les fabricants ont finalement été tenus responsables des dommages causés par leurs produits malgré les avertissements sanitaires. Les réseaux sociaux pourraient à leur tour être contraints de revoir en profondeur leurs algorithmes et leurs interfaces, ce qu'il faut souhaiter, je crois, sous peine de sanctions financières lourdes et de dommages sur le plan réputationnel. Ces jugements entrent en résonance avec une prise de conscience qui se généralise, comme quoi parfois dans l'actualité il y a des bonnes nouvelles. En décembre 2025, l'Australie a interdit l'accès aux réseaux sociaux aux moins de 16 ans, et pour être suivi par le Royaume-Uni et la Malaisie, la France prend des initiatives pour encadrer l'usage, vous le savez, des smartphones chez les ados. Le chinois ByteDance, qui est la maison mère de TikTok, a été sommé par la Commission européenne de revoir la conception même de son application, sous peine de lourdes sanctions. Il y a une prise de conscience sociétale, il y a une prise de conscience politique. Partout, les alertes sanitaires se multiplient et appellent à des mesures poussant les réseaux sociaux à ne plus ignorer les dommages collatéraux de leur modèle économique. C'est intéressant, hein ? La condamnation de Meta et de YouTube, même si elle n'est pas définitive, envoie un signal utile aux médecins, aux enseignants et surtout à qui ? Aux parents, souvent démunis face aux usages intensifs ou problématiques des réseaux par leurs enfants. Il est trop tôt. Vous savez, c'est un truc, c'est mon sentiment que j'exprime souvent sur le sujet. Au moment du débat sur l'interdiction des réseaux sociaux au moins de, c'était combien en Australie ? 16 ans ou 15 ans ? Je sais plus. Certains me disaient, ah, mais c'est pas de la responsabilité, c'est pas au législateur de faire ça, c'est pas au pouvoir public de faire ça, c'est pas à l'État de faire ça, c'est aux parents. Voilà. Et moi, mon sentiment là-dessus, c'était que c'est une responsabilité partagée, d'abord des parents, de l'école, de la société dans son intégralité, et quelque part, un pays, un législateur qui vote une loi comme ça, qui est une loi d'affichage, personne ne va, on ne va pas envoyer des policiers dans les foyers pour voir si les enfants en dessous de 15 ans ils ont accès aux réseaux sociaux. C'est un truc d'affichage, c'est un truc symbolique. Hein ? Mais quand tu fais voter un tel texte, eh bien, tu envoies un message à la société, aux jeunes d'abord, à la société, à leurs parents, que ce truc n'est pas bon pour les plus jeunes et les plus fragiles. Voilà. Tu communiques, tu fais circuler une information, tu donnes aussi des outils aux parents qui peuvent expliquer ensuite à leurs enfants, qui leur donnent des arguments en leur disant « Écoute, ce n'est pas bon pour toi, je ne veux pas que tu aies accès à ce genre de choses. D'ailleurs, c'est interdit par la loi. Voilà. » Je pense que voter ce type de loi, ce type d'interdiction, c'est donner davantage de moyens, d'informations, de force aux parents pour les aider dans leur tâche éducative qui est une tâche extrêmement difficile. Ceux qui sont parents le savent. Donc, c'est ce que dit Le Monde. Et si la condamnation de Meta à YouTube, même si elle n'est pas définitive, envoie un signal utile aux médecins, aux enseignants et surtout aux parents, souvent démunis face aux usages intensifs ou problématiques des réseaux par leurs enfants, il est trop tôt pour savoir si le rapport de force avec les géants de l'Internet est en train de s'inverser, mais ces derniers savent désormais qu'ils ne peuvent pas impunément se dispenser d'une éthique de la responsabilité où la protection des plus fragiles prime sur la maximisation du temps d'écran et toute la thunasse qu'il y a derrière. Ça, c'est moi qui l'ajoute. Oui, je suis d'accord avec Chris. Je pense, Chris nous dit, je pense qu'il faut arrêter de dire que c'est une responsabilité unique des parents, c'est une responsabilité globale, car on est en train de créer une génération avec une explosion de troubles psychologiques, c'est une responsabilité de la société au sens large. Je suis complètement d'accord avec toi. Est-ce qu'on a des nouvelles de notre ami comptable là qui voulait un virement d'argent public là ? Ou alors il n'a pas trouvé les infos, puisqu'il n'y a pas d'infos. Eh oui. Donc, pour contextualiser ce qui vient de se passer, je vous donne l'info du coup. Peut-être que la personne est toujours là. Donc, pourquoi je me suis amusé un peu avec ça ? Comme vous le savez, lors de mon audition par la commission de l'Assemblée nationale sur le financement, la neutralité et l'indépendance du service public de l'audiovisuel, Le rapporteur de la commission a évoqué, suite à cette audition, dans les jours qui ont suivi, à au moins deux reprises sur Internet, sur le réseau social X, le fait que j'aurais touché, pour mon départ de France Télévisions, qu'on appelle ça déjà la... Tu sais, quand... J'oublie toujours le nom de ce contrat, parce que ce n'est pas un très bon souvenir, donc ma mémoire l'a viré. La rupture conventionnelle, une somme de plusieurs centaines de milliers d'euros. Voilà. Donc il l'a écrit à deux reprises. Suite à quoi, j'ai reçu des milliers de messages extrêmement agressifs, insultants, violents, parfois menaçants, à propos de cette somme. Voilà. Avec des chiffres circulant, donc, puisque c'était monsieur le rapporteur, je vous parle d'un élu de la République, d'un député, de plusieurs centaines de milliers d'euros, et souvent le chiffre qui était évoqué, c'était entre 300 et 400 000 euros. Je viens d'envoyer, il y a quelques jours, un mail à la commission en précisant le chiffre de cette rupture conventionnelle, voilà, donc avec un extrait de document, hein, prouvant que le chiffre évoqué, avancé par monsieur le rapporteur, était faux. Et j'ai donc demandé à la commission de demander à monsieur le rapporteur des excuses publiques pour diffusion de fausses informations et diffamation. J'attends la réponse de la commission. C'est pour ça que quand quelqu'un vient me demander de rendre l'argent, je lui demande dans le chat, mais de quel argent parles-tu ? J'attends la réponse de la commission, j'attends les excuses, et si je n'ai pas de réponse, et si je n'ai pas d'excuses publiques, maintenant que le chiffre, monsieur le rapporteur, l'a, eh bien, je verrai ce que je fais. Voilà, fin de l'histoire. Comme ça, vous avez un petit peu le contexte. À un moment, c'est un des défis qui se posent dans notre société. On ne peut pas raconter n'importe quoi. On ne peut pas inventer des informations. On ne peut pas inventer des chiffres. Voilà. Il faut un minimum de rigueur. Et quand on est en responsabilité, quand on est élu de la République et quand on est député, cette obligation, elle est encore plus essentielle, elle est encore plus importante, quoi. Donc voilà, je ne lâcherai pas cette affaire et je vous tiens au courant. Urcien me dit qu'il faut se dépêcher pour la diffamation, c'est soumis à un délai de prescription de 3 mois à compter des faits. Ben on va se précipiter. On va se dépêcher. Est-ce qu'il nous reste l'info ? Ah oui, il nous reste un truc passionnant sur les gourous de l'IA. Ouais. Alors, ça, c'est Le Monde qui a commencé ça il y a quelques jours, et c'est passionnant. Le Monde nous propose, et c'est pour ça que j'aime la presse écrite, un feuilleton en 9 épisodes sur les gourous de l'IA, qui sont les têtes pensantes, les décideurs de l'IA. Voilà, alors on a lu déjà certains de ces portraits, avec le patron de... on a lu qui a... je peux vous les montrer d'ailleurs, je suis bête. On les a lus hier, regardez. Les portraits qu'on a déjà lus. Yann Lequin, le français, Meredith Whittaker, de Signal, Sam Altman, d'OpenAI, Dario Amodei, d'Anthropic. Et des portraits comme ça, on va en avoir pendant 9 jours. Et donc là, il y avait... Oh pardon, oh merde, vous n'avez pas la scène, pardon. Attendez, alors je vous montre les portraits qu'on a déjà lus hier. Donc, il y avait celui que j'ai bien oublié, d'ailleurs. Le patron de NVIDIA, Jensen Huang, voilà. Et sa vision, sa conception de tout ça. Meredith Whittaker, qui elle est en croisade contre la surveillance de masse et la présidente de Signal. Yann Lequin, le français, là, qui a de grands projets aussi, qui vient de lever des millions de dollars. Dario Amodei, le fondateur d'Anthropic, qui est convaincu par exemple lui que l'IA pourrait doubler la durée de la vie humaine, ou encore Sam Altman, le PDG d'OpenAI, qui estime que le travail humain va être surpassé en tout domaine. Donc on a lu plein de choses très intéressantes. Et là il y a un nouveau portrait donc dans la dernière édition du Monde d'Arthur Mensch, voilà, le fondateur de la start-up Mistral AI, qui dénonce la concentration de cette technologie, l'intelligence artificielle, dans les mains d'une oligopole. Menko, c'est dans le journal Le Monde, c'est la dernière édition du journal Le Monde qui est sortie cet après-midi. Arthur Mensch se pose en défenseur d'une intelligence artificielle ouverte, présentée comme une solution de rechange à celle des géants américains tels que OpenAI, Anthropic ou encore Google. Prenant souvent le contre-pied des discours de certains dirigeants du secteur sur les risques extrêmes de l'IA, le fondateur de la start-up française Mistral AI met de plus en plus en avant la notion de souveraineté contre la concentration de cette technologie dans les mains d'un oligopole. Nous pensons possible de faire émerger un acteur indépendant et européen, bon, c'est assez séduisant. Nous pouvons rivaliser avec OpenAI ou Google, expliquait au Monde Arthur Mensch, début 2024, quelques mois après avoir lancé sa start-up, mi-2023. Pour se distinguer des groupes américains, le nouvel entrant français a d'abord diffusé des modèles d'IA plus petits, moins gourmands en ressources, et aussi open source, accessibles, modifiables gratuitement, quand Google ou OpenAI avaient cessé de partager leurs recherches en IA. C'est une manière de rendre l'IA sûre, car cela permet à tous les chercheurs de travailler sur le contrôle, disait-il. C'est intéressant, hein ? Produit de la recherche scientifique française, Polytechnique, École Normale Supérieure, Institut National de Recherche en Sciences et Technologies Numériques, wow, comme c'est impressionnant ! Arthur Mensch défend une vision assez pragmatique de l'IA, en décalage avec l'objectif affiché par les Américains Sam Altman, OpenAI, ou Dario Amodei, Anthropic, d'atteindre une super-intelligence, une intelligence artificielle générale capable de surpasser les humains dans nombre de domaines. Toute la rhétorique de l'IA générale consiste à créer Dieu. Je ne crois pas en Dieu, je suis un athée convaincu, je ne crois donc pas à l'IA générale, affirmait le fondateur de Mistral AI au New York Times en avril 2024. On ne croit absolument pas au technosolutionnalisme que vous pouvez trouver dans l'Ouest des États-Unis, en particulier qui consiste à penser que tous les problèmes du monde vont être résolus avec l'IA générale, a-t-il encore ajouté en février. En parallèle, le dirigeant français, passé par Google DeepMind, a aussi critiqué les discours portés notamment ces derniers mois par Dario Amodei, donc Anthropic, sur les risques existentiels de l'IA pour l'humanité, perte de contrôle de cette technologie, création d'armes biologiques, ces risques extrêmes-là. Alors lui, il estime que cela reste de la science-fiction. Voilà. Qualifiant ce discours, vous savez, de distraction, voilà, par les dirigeants du secteur de la tech. En réalité, pour lui, le vrai risque de l'IA à venir, c'est celui de l'influence massive sur la manière dont les gens pensent et sur la manière dont ils votent, a estimé celui qui avait déjà mis en garde contre un potentiel oligopole de l'information avec les assistants ChatGPT ou encore Grok. En 2023, il avait aussi jugé d'alerter sur les risques extrêmes de l'IA qui pourraient être un moyen pour les géants du secteur de fermer le marché en imposant des régulations gênant les startups ou restreignant l'open source. En retour, Arthur Mensch et Mistral AI avaient eux été accusés de défendre leurs intérêts et d'avoir poussé la France et le président Macron à s'opposer à certaines dispositions du règlement européen AI Act, notamment sur la transparence des contenus utilisés pour entraîner les modèles d'IA. L'entreprise a depuis signé le code de bonne pratique qui est lié au texte. Face aux tensions géopolitiques renforcées après l'élection de Trump, la nouvelle élection de Trump à la présidence des États-Unis, l'entrepreneur français axe de plus en plus son discours sur la souveraineté. L'Europe ne doit pas devenir une colonie de l'IA, car sinon notre industrie fonctionnerait avec une infrastructure qui peut être désactivée si les États-Unis le décidaient. Puis au sommet de New Delhi, il a mis en garde contre la trop grande concentration de pouvoir dans le secteur, appelant les pays à adopter l'open source. Salut Marine Swim. L'IA est un sujet d'une importance colossale d'un point de vue stratégique et de souveraineté dans trois domaines, a-t-il plaidé. La compétitivité industrielle, l'accès à l'information avec le risque d'influence, dangereuse pour la démocratie, ça c'est essentiel aussi, et enfin le militaire avec la nécessité pour l'Europe de déployer des systèmes d'IA pour réinstaurer un effet de dissuasion qui risque de se perdre si on n'utilise que la dissuasion nucléaire. Et de prévoir qu'à l'avenir, les choses vont se tendre avec les États-Unis, où la technologie est conçue comme un vecteur de puissance et de colonisation. Je trouve cet article, ce portrait, assez passionnant. Je vous lis, certains d'entre vous maîtrisent beaucoup mieux ce sujet que moi. Coucou Alexandra. Credoc me dit, il faut parler de Michael Burry, l'investisseur américain devenu célèbre pour avoir anticipé la crise des subprimes de 2008, où que tout le monde prenait pour un fou, il a pris des positions contre l'IA. Peut-être qu'il sera évoqué dans cette série de portraits, hein. Mais cette série de portraits dans Le Monde, là, on en est qu'à l'épisode 3 sur 9, est vraiment intéressante. Je pense qu'elle a. Peut-être qu'on se fera une spéciale où on les relira tous à un moment, parce que c'est quand même un sujet que moi je commence tout juste à explorer, que je maîtrise très très mal. Et on voit que ça soulève quand même beaucoup de questions de souveraineté, de menaces pour la liberté et la qualité de l'information, des menaces sur les démocraties, sur notre économie. Et Sugar dit, et visiblement, ils sont pas du tout d'accord entre eux. Ah oui, ça c'est quelque chose de très net, ils sont absolument pas d'accord entre eux. Il y a Dominique de Villepin en live Twitch dans la rue. Ok, mais qu'est-ce qui se passe, bordel? Il y a Villepin en live Twitch dans la rue? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais il a créé une chaîne Twitch? Il a lancé sa chaîne ce soir? Il est en. Un quoi? Bah, ils sont 110 là. C'est pas un live Twitch, c'est une soirée dans un bar. Mais c'est quoi le contenu là? C'est des gens de dos qui prennent des verres? On me dit dans le chat, il vient d'annoncer se lancer dans la présidentielle dans un discours à la Sorbonne. Oui, j'entends bien, mais quel est le propos du live là? Ah, c'est l'after. Il vient d'annoncer sa candidature à la présidentielle. Ah, c'est intéressant. Il y a les articles. Attendez, on va aller voir. C'est vachement intéressant. Il a oublié de fermer la caméra? Ah ben, c'est pas moi qui vais lui jeter la pierre, hein. C'est pas moi qui vais lui jeter la pierre, hein. Il a un sommaire? Il a un gros sommaire ou pas? Donnez-lui un sommaire, hein. Ah, on me dit que rien n'a encore été annoncé. Attendez, c'est officiel ou pas? On l'a ou pas? Vous êtes sûr, là, la candidature, c'est officiel, officiel? Je l'ai pas, moi, dans l'actu, hein. Suspense, là, il y a quelques heures. Je t'ai envoyé la vidéo? Tu m'as envoyé la vidéo où? Ah, merci. Tu m'as envoyé la vidéo, tu m'as envoyé la vidéo en chuchotement? En chuchotement? Non. Tu me l'as envoyé où? Tu me l'as envoyé sur Twitter? Tu me l'as envoyé où? Moi, je vois pas l'info, hein, pour l'instant. Prudence, prudence sur l'actu. Il l'a pas encore annoncé, mais il l'a insinué. Son discours à la Sorbonne était clairement un début de programme, me dit Mickey. Vous voyez, il faut être prudent. Eh, les gars, on est passé de. Il vient d'annoncer sa candidature pour la présidentielle à. Merci Mickey. Ah non, il l'a insinué. Alors enfin, n'embrayez pas comme ça. Hein? Enfin. Ok, d'accord. Il tâte le terrain, me dit Sugar. Ok. Ok, bah à suivre. Voilà les amis pour cette petite revue de presse. Alors c'est des petites revues de presse en ce moment parce que c'est le soir, hein. Ce n'est pas le matin, voilà. Et ça va être encore le cas lundi, mardi, mercredi de la semaine prochaine, parce que je suis encore en question pour un champion. La bonne nouvelle, c'est que la prochaine session, ce sera en septembre maintenant. On va être tranquille. Donc on ne sera plus embêté. La revue de presse, ce sera à nouveau à partir de jeudi, tous les matins. À venir dans les streams, vous avez demain peut-être un petit réact sur le passage de Monsieur Vincent Bolloré devant la commission de l'Assemblée nationale sur l'audiovisuel public, peut-être demain après-midi ou demain soir. Vous avez un très beau sample sur le jeu The Stanley Parable avec Patrick Beau dimanche soir à 20h, ça va être formidable. Des petites choses ce week-end, le retour de la vue de presse donc en soirée lundi, mardi, mercredi, et donc le retour de l'horaire habituel le jeudi et le vendredi de la revue de presse. Je m'étais dit dans quel monde je lance un stream gaming ce soir. J'ai un peu de boulot en vrai. Voilà, j'ai notamment un mail à envoyer à un avocat. Et il faut peut-être que je bosse dessus un petit peu parce que j'ai pas eu le temps avec les tournages de cette semaine. Voilà. Les amis, un grand merci. Voilà. On va aller voir qui est en live, à qui on pourrait faire un petit raid. Ah, et on va se retrouver demain. Je regarde qui est en live. Ah non, moi je rate pas les politiques, moi. Ah bah non, non. Ah non, non, on rate pas les politiques, les gars. Non, non, vous êtes fous, quoi. Vous êtes pas là ou quoi? Il y en a du monde, hein. Ah, je suis trop de... Oh! C'est drôle. Je regarde, hein. Je prends mon temps, hein. Culture Clash? Oh oui, vous avez raison. Bon, je pense qu'il va pas... Mon Rayou, vous avez raison. Mais oui, bien sûr qu'il faut raid Rayou ce soir. Alors, je pense qu'il va pas voir le live, hein, parce qu'ils sont des milliards. Voilà. Mais vous avez raison, c'est un raid qui s'impose. Voilà. Rappelons que Rayou est quand même celui qui a permis que je découvre, que je connaisse, que j'explore Twitch au tout début. Voilà. Et je ne le remercierai jamais assez. Donc, il verra pas le raid, mais c'est pas grave. Nous, on sait qu'on le raid. Voilà. Attends. Ah, ils sont en petite pause de 5 minutes là. C'est la finale, ah, ben, c'est encore mieux. Voilà, vous allez sur un stream de qualité, vous allez voir l'ami Rayou, Culture Clash. Il y a une petite pause de 5 minutes et vous arrivez pile poil pour la finale d'après ce qu'on me dit. Merci. Attendez, ici on fait très attention maintenant pour les raids. On éteint la caméra, on met l'écran de fin, il ne peut rien se passer. Je charge le raid, je vous remercie pour ce soir, je vous souhaite une belle soirée, je vous souhaite un super beau week-end auprès, je l'espère, de vos proches, de ceux que vous aimez, de vos amis, de votre famille, plein de détente, plein d'occupations, j'espère pas trop de boulot. On se retrouve demain, ou plus tard demain soir, peut-être demain après-midi, je vous tiens au courant. Des bisous, à demain, bon week-end.